Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ma famille a gagné une voiture à un jeu Carrefour un jour. Ils étaient absolument morts de rire, mais ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est les gros lots qui ont gagné le gros lot. Et c'était l'anecdote du siècle au Carrefour.
Très voilà. Bon, très bon.
Et Nico Paz, il a vraiment fumé comme une cigarette après avoir fait l'amour, si je peux me permettre.
Est-ce que Donnarumma sera le gardien titulaire à la Coupe du Monde pour l'Italie?
Oh non,
ouais,
Polo,
j'allais la sortir, Polo.
Polo,
j'allais la sortir. Ah,
c'est con, il a tout loupé. Il a tout loupé. Mais non, pas toi, hein, Julien.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. Génération After spécial drôle de dame. La seule émission à la radio française qui parle pendant 2 heures de football étranger, même quand la saison est terminée. Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui, comme Pep Guardiola hier, sait qu'il pleurera quoi qu'il arrive samedi soir. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
De joie, de tristesse, on ne sait pas.
Tout à fait.
Je serai servi en émotion samedi soir. PSG Arsenal, Ligue des Champions. La finale pour l'Italie. Une drôle de dame qui, oui messieurs dames, mérite une haie d'honneur ce soir. Sa Serie A a été une purge toute la saison, mais nous a offert le plus grand cirque de la dernière journée. Merci le Milan, merci la Juve aussi. Merci le Napoli. Merci Conte De Laurentiis. Merci Daniele Manuccia. Bonsoir Daniele.
Merci à vous, merci à vous.
Quel régal. On va faire la meilleure émission sur l'Italie ce soir, c'est sûr. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui n'a pas été vraiment émue cette saison. Un Bayern champion sans suspense. Un Union Berlin maintenu sans suspense. 40 buts de moyenne par journée, normal. Il en faut plus pour l'émouvoir. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde.
Et pour l'Espagne, une drôle de dame qui achève sa première saison avec les drôles de dames. Petit empanada est devenu grand et moi ça m'émeut. Grande saison Edgar Grollo. Bonsoir mon cher Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde. Et oui, on arrive à la fin.
Bientôt, il restera encore une émission la semaine prochaine, bien sûr. De quoi allez-vous nous parler ce soir? Tiens, je commence avec toi Edgar.
Alors on va parler de la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde qui a été officialisée ce midi par Luis de la Fuente. On va l'analyser, en tirer quelques enseignements. On va parler de la descente de Gérone qui est passé en un an, rendez-vous compte, de la Ligue des Champions à la relégation. Et puis dans l'autre sens, on dédiera la minute à la remontée du Deportivo La Corogne.
Polo.
Bon, évidemment, vu la saison extraordinaire du Bayern Munich, on va se poser la question et se projeter sur l'année prochaine. Comment le Bayern peut-il aller décrocher la Ligue des Champions 2027? On va présenter un petit club, le 59e club en Bundesliga, le SV Elversberg, qui est un Dorfverein, un club de village.
Allemand LV1. Julien, décidément.
Alors on va revenir sur cette dernière journée en Première Ligue aussi hier avec beaucoup d'émotions un petit peu partout, d'Arsenal à Tottenham en passant par City et Liverpool bien sûr. On parlera de Hull City qui est promu en Première Ligue et puis aussi on reviendra sur l'annonce de Thomas Tuchel de son groupe pour aller à la Coupe du Monde qui a beaucoup fait parler et qui continue de faire beaucoup parler.
Et Daniele.
Mais on va parler justement de la dernière journée aussi qui a décidé de la Ligue des Champions de l'année prochaine. On va parler de la défaite de Milan, la grosse déception de Milan. On va parler de la grosse déception de la Juventus aussi, mais surtout de l'exploit de Com et Borsa entre autres.
Est-ce un exploit? On va en parler d'ailleurs. Hein. Com qui va jouer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. On en parle avec toi ce soir, Daniel. Et tiens, je vous rappelle que l'After prend le relais à partir de 22h. After exceptionnel, invité exceptionnel. Il a gagné la Coupe de France. Il est deuxième de Ligue 1. Pierre Sage sera l'invité de Julie Babribois, Daniel Riolo, Walid Acherchour tout à l'heure. Pendant une heure, vous pourrez poser vos questions également au 32-16, au coach du Racing Club de Lens. Et puis, il sera question également de l'avenir de Bruno Genesio, dont on a appris il y a quelques minutes qu'il allait quitter le Lille Olympique Sporting Club après l'avoir qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, gros programme dans l'After à partir de 22h ce soir. Et puis je vous rappelle que sur RMC, on joue la liste des 26 pour gagner peut-être 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde, un vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel. Restez bien à l'écoute et au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer liste au 732-16 et pour être tout à fait complet, Vous pouvez demain également assister en studio à la finale de la Nouvelle Voix de l'After, en direct à partir de 19h ici dans les locaux d'RMC. Pour cela, il faut envoyer un mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr, pour assister à la finale en direct de la Nouvelle Voix de l'After. Ils étaient 3500 au départ, ils ne sont plus que 4 pour décrocher un rond de serviette autour de la table ici. Nous serons tous là avec Daniel, Gilbert, Walid, Kevin et les candidats. Voilà pour le rendez-vous, c'est parti pour les drôles de dames. Et Julien, je commence avec ton dimanche d'émotion, bien sûr. T'en as beaucoup parlé déjà hier soir dans l'After. Une grosse page de ton feuilleton se tourne. Pep Guardiola, 10 ans, 20 titres, 6 premières ligues, 1 ligue des champions, a donc tiré sa révérence, en même temps que Bernardo Silva notamment, John Stones aussi. Question simple, Julien, à quel point Guardiola va te manquer, va vous manquer, va manquer au championnat anglais et pourquoi ?
Énormément. C'est vrai qu'il va laisser un grand vide, forcément, hein, parce que après les 10 ans qu'il a passé ici, tout ce qu'il a pu apporter au football anglais, on en avait déjà discuté aussi et hier et samedi soir également avec un petit peu tout le monde. Tu peux laisser une marque sur les trophées que tu gagnes, sur 25 ans passés, hein, dans un club comme Sir Alex Ferguson par exemple, ou Arsène Wenger, dans ce que Wenger avait pu changer, notamment dans l'approche des matchs et du football, la diététique, tout ce qu'on veut et tout ça. Pour Ferguson, c'est surtout et avant tout tout ce qu'il a pu remporter avec Manchester United et la longévité. Mais pour Guardiola, c'est vraiment qu'il a inspiré toute une génération de coachs jeunes comme plus anciens, confirmés comme néophytes, en plus de changer les mentalités anglaises sur la tactique, sur ce que tu peux faire avec un ballon, sur une évolution tactique même en cours de carrière dans un même club, parce que le Guardiola qui arrive en 2016 est très différent du Guardiola d'hier, qui est très différent déjà du Guardiola du triplé avec City en 2023, qui est aussi très différent par exemple du Guardiola de 2018 et des 100 points en Première Ligue et du Guardiola qui remporte 4 titres de Première Ligue d'affilée, que ce que personne n'avait jamais réussi par le passé dans l'histoire de la Première Ligue. Donc même lui a su évoluer, se remettre en question parfois, il a aussi beaucoup douté, j'imagine, hein. Rappelez-vous la saison dernière, ce visage griffonné et toutes ces marques d'anxiété, de tension, de stress chez lui. Je pense que ça l'a beaucoup marqué aussi, le football anglais, la première année très compliquée où finalement les Anglais disaient mais tu pourras jamais réussir ici, ton football c'est pas pour nous, on a inventé le football, toi tu peux pas venir chez nous et nous apprendre comment jouer au foot, et pourtant c'est il a ça. Quand même réussi à faire ça, c'est ça qui est fou.
Première année, ça c'est notamment avant l'arrivée d'un homme majeur dans sa décennie à City, notamment hein, Bernardo Silva, Julien.
Oui, c'est vrai, puisque Bernardo, rappelez-vous, l'élimine avec Monaco et Kylian et Fabinho et Falcao, etc. et Jardim en huitième de finale à l'époque de sa première saison, donc 2016-2017, avec le match retour. Rappelez-vous le match aller à l'Etihad, c'est fantastique, le match retour bien sûr à Louis II. Et c'est vrai que l'arrivée de Bernardo Silva, donc l'été suivant, l'été 2017, donc pour la seconde saison de Pep, va coïncider avec les grandes années, bien sûr, parce que cette première saison, elle est blanche déjà, ce qui est très rare dans la carrière de Pep Guardiola. Mais c'est vrai que l'arrivée de Bernardo et d'autres, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup dépensé aussi, hein, 2 milliards d'euros sur les 10 ans. Alors pas en net, mais donc sans compter juste dans les achats, sans compter les ventes, mais juste sur les achats, c'est quand même beaucoup. Il avait aussi hérité déjà d'un groupe qui était de qualité. Quand tu penses qu'Aguero était déjà là, que De Bruyne était déjà là quand il est arrivé, mais bon, quand même, il a su façonner cette équipe autour notamment de Bernardo Silva, son génie. Et d'ailleurs hier, quand il sort Bernardo Silva en début de seconde période, Bernardo se met à pleurer sur le terrain déjà. Guardiola se met à pleurer sur le banc, tout en attendant que Bernardo sorte du terrain.
C'est que Guardiola veut pas le croiser parce qu'il a peur de craquer aussi, non?
Ah, complètement. Mais tu le vois sur son visage, Guardiola, il est défait déjà. Bernardo, je pense peut-être aurait voulu jouer encore un tout petit peu plus, mais la haie d'honneur des joueurs de City et ceux d'Aston Villa s'est très vite formée. Il est sorti sous une ovation assez incroyable, les yeux rougis. Et Guardiola, c'était pareil. Ils ont eu une relation d'amour forte, de respect déjà, de filiation père-fils. Sincèrement, il y a eu des moments plus compliqués, on l'a déjà expliqué quand on avait parlé du départ de Bernardo, ou des fois où peut-être Guardiola kiffait un petit peu moins son petit Bernardo, peut-être que Bernardo était un peu moins bien aussi. Mais quand on voit encore la saison de Bernardo Silva, c'est ils se sont apportés l'un à l'autre et tous les deux ensemble à City est incommensurable.
Si un joueur incarne l'ère Guardiola à City, c'est bien Bernardo Silva, bien sûr. Les supporters se consoleront hein, s'il leur manque, devant la statue de Pep Guardiola qui sera bientôt érigée devant le stade. Il y aura une tribune, on le sait aussi, à son nom. Il y a beaucoup de managers légendaires. Je ne sais pas si ce débat a déjà été lancé chez toi en Première Ligue ces dernières heures ou depuis plusieurs semaines, mon cher Julien. Où placer Pep Guardiola dans l'histoire des grands managers, grands coachs anglais, en tout cas du championnat anglais, entre les Bill Shankly, les Sir Alex Ferguson, les Matt Busby, les Arsène Wenger? Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as dit un truc important tout à l'heure, c'est qu'il a changé le jeu en première ligue. Il a apporté un changement culturel pour pas mal d'équipes et dans l'approche du jeu du football, tout simplement. Est-ce que c'est ça qui peut en faire le plus grand, en tout cas le plus différent, le plus singulier?
Moi, je pense. Moi, je pense. Après, les 20 titres en 10 saisons, c'est quand même magnifique en soi. Enfin, en 9 saisons même, puisqu'on en a parlé, la première saison était blanche. Donc, 20 titres en 9 saisons, c'est quand même assez extraordinaire, malgré toutes les dépenses, tout ce qu'on veut, hein, malgré ce qui pèse aussi au-dessus, là, cette épée de Damoclès au-dessus du club, des 115, à un moment, on saura ce qui va se passer avec toutes leurs infractions, entre guillemets, si elles sont prouvées. Mais, oui, pour moi, en tout cas, en termes de palmarès, déjà, c'est lui, Sir Alex, dans un monde à part, déjà, premièrement.
Alex, 13 fois champion d'Angleterre, hein, Sir Alex Ferguson.
Voilà, effectivement, en première ligue, plus les deux ligues des champions, enfin, dont un triplé. Pour moi, c'est dans la conversation, t'es entre les deux. Après, oui, tu peux regarder il y a bien plus longtemps, hein, Herbert Chapman, par exemple, qui avait révolutionné le jeu en Angleterre dans les années 30, à ce moment-là, avec Huddersfield et avec Arsenal. Et puis après, Shankly, Paisley, toute cette grande, Busby aussi, d'ailleurs, hein, tous ces grands chez, à Liverpool, à Manchester United.
Déjà devant le stade aussi, d'ailleurs, hein, c'est marrant.
Voilà, exactement, quoi. tout à fait. Mais pour moi, là où Guardiola s'impose finalement au-dessus de tout ça, au-dessus même de Sir Alex lui-même, c'est effectivement cette l'inspiration qu'il a apporté à tout le monde. On a vu des équipes en 5e, 6e, 7e division, essayer de jouer comme Guardiola. Alors c'était pas toujours avec succès. Il y a beaucoup d'Anglais qui ont dit mais arrêtez de vouloir le copier, personne peut jouer comme les équipes de Guardiola et vous n'avez pas non plus les mêmes joueurs et vous n'avez pas non plus les mêmes ressources, etc., etc., ce qui était vrai. Mais quand même, quand tu inspires autant et que tu influences autant un pays entier, et puis encore une fois, hein, faut bien comprendre que c'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui se considère comme celui qui sait tout à propos du foot, qui a tout appris à tout le monde et qui est au-dessus de tout le monde. Donc que lui arrive et change de cette façon-là,
bien sûr,
voilà, et qui change les mentalités de cette façon-là, c'est énorme. Et pour moi, ça en fait effectivement le meilleur entraîneur de l'histoire du football anglais.
Quelqu'un veut réagir, Polo, toi qui as un peu plus de regard, de recul sur l'histoire également. Bon, t'as pas connu forcément Bill Shankly, hein, mon cher Polo, mais t'as connu Sir Alex Ferguson surtout.
Mais à mon époque, on en parlait de Shankly, et Ferguson arrive plus tard. Moi, ce qui m'impressionne chez Guardiola, c'est la régularité. J'ai vu tous ceux qui le critiquaient, etc. C'est-à-dire que qu'il soit à Barcelone, qu'il soit à Munich ou à City, c'est quelqu'un qui chaque saison, à ma connaissance, il n'y en a pas une seule. Si l'année dernière, je viens de vérifier, l'année dernière, c'est la seule saison où il met pas en championnat au minimum 2 points de moyenne, ce qui est déjà extraordinaire lorsqu'on arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça fait quasiment 20 ans que ces équipes jouent le haut du classement, quelle que soit l'équipe qui l'entraîne. Donc moi, je trouve ça déjà sur la durée phénoménale. Il y a souvent des coachs qui ont des périodes extraordinaires, puis après ils chutent, etc. La deuxième chose qui me Julien l'a dit, c'est-à-dire que il va pas prendre l'équipe en 3e division, il va pas l'amener en 1ère division, il va pas révolutionner le jeu et devenir champion comme ça. Il y a beaucoup de nuages au niveau des comptes de Manchester City. Il y a des dépenses qui ont été faramineuses pendant des années.
Aussi, bien sûr.
Mais ça n'explique pas son talent. C'est-à-dire que lui est, de mon point de vue, le meilleur de sa génération et il veut les meilleurs joueurs. Ça, je le comprends. Le problème, c'est que moi, j'aurais aimé voir quelqu'un un petit peu comme Arrigo Sacchi qui débarque d'on ne sait où, qui réussit une révolution footballistique extraordinaire et qui l'impose au football. Lui, je pense qu'on a beaucoup critiqué d'ailleurs en disant que c'est pas lui, c'est la tradition avec Johan Cruyff et tout ça. Moi, je pense que Guardiola a apporté beaucoup plus que ça. Il a essayé d'évoluer année après année, mais je constate quand même qu'il n'avait pas jamais le dernier budget du championnat où il évoluait, quoi. Oui. C'est ça un peu qui me perturbe toujours. Donc il y a peut-être un manque pour moi à ce côté-là. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est lui, le personnage qu'il est, parce que son catalanisme, c'est très intéressant, et il va dans le championnat le plus globalisé du monde. Donc moi, j'ai toujours un peu de problème. C'est un peu comme les gaullistes qui vont, les gens qui se réclament du général de Gaulle et qui trouvent la première ligue merveilleuse. Moi, ça me perturbe toujours un petit peu parce que j'ai raté un épisode au niveau de ma formation universitaire en politique. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelques nuages quand même, mais moi je le considère de loin, d'ailleurs largement devant Klopp, comme le plus grand coach de sa génération.
Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, moi je voulais poser une question à Julien, parce que j'ai lu beaucoup d'articles, Jonathan Wilson notamment, Barney Roney sur la presse anglaise, et en fait ce qu'ils disent, c'est que Guardiola, il a changé le football anglais plus de combien le football anglais a changé Guardiola. Mais en même temps, il s'en va dans un moment où son influence on dirait qu'elle baisse un peu, que ça décline, que les footballs anglais reviennent au coup de pied arrêté, au long ballon.
C'est vrai.
Et donc voilà, je voulais lui demander quel va être, selon Julien, l'héritage de Guardiola en Premier League.
Non mais tu as raison, après on sait très bien que le football c'est aussi très cyclique, même tactiquement et tout ça, mais je pense que cette période-là de 10 ans, cette période dorée dans un sens de ce football nouveau que les Anglais ont adopté restera pour toujours. Alors je sais que quand on parle de Guardiola étant le plus grand, tu peux pas comparer 10 ans et les 25 années de Sir Alex par exemple avec des victoires et des succès en continu quasiment tout le temps, donc j'ai bien conscience de ça, mais c'est vrai, tu as raison aussi Daniele, qu'on est passé déjà à l'après Guardiola en fait, qu'on a tourné la page. Alors même si lui a essayé de s'adapter aussi cette saison et de changer un petit peu, de plus de verticalité, ce genre de choses là c'est peut-être le meilleur moment finalement pour qu'il parte, et qu'il parte à ce moment là tu vois, donc ce sera très intéressant de voir ce qui va se passer après.
Oui, c'est ça,
mais si tu regardes, et si je regarde les disciples de Guardiola, en fait, ils sont là. Hein. Maresca va lui succéder à City, Arteta, Compagnie, ouais. Et puis il y aura d'autres dans la génération qui va prendre sa retraite bientôt là, dans les Fabregas. De Bruyne, dans les Bernardo. Oui, Fabregas aussi. Mais tu vois, mais eux aussi maintenant ont un peu évolué. À la base, ils étaient tous Guardiola. Et puis même maintenant, aujourd'hui, tu sens quand même que ils vont vers leur truc à eux et beaucoup plus d'intensité encore et de physicalité. De l'aspect physique et tout ça. Et je pense que de Guardiola, tu garderas toujours le meilleur. Et puis après, surtout pour les plus intelligents, ils apporteront leur petite touche à eux. Mais au final, toujours au fond, tu trouveras quelque chose de pep en eux. Et juste pour finir, et si vous voulez un petit peu plus de Guardiola, on a enregistré un très bon after Angleterre, ouais, sur Pep Guardiola, où il y aura beaucoup de stats avec Rémi, avec Jérôme. Donc c'est disponible sur toutes nos plateformes. Et c'était vraiment super intéressant sur une demi-heure de plonger vraiment dans cette dynastie Guardiola.
C'est dispo en audio, hein, toutes les plateformes de téléchargement, ouais, mais également sur YouTube, le podcast After Angleterre, comme le podcast After Allemagne, Espagne et Italie. Bien sûr, sur l'Espagne, on a fait Robert Lewandowski, il est une légende du Barça. Allez-y également.
On aurait pu faire Guardiola aussi.
On aurait pu faire Guardiola finalement. Aussi, tu as raison.
En Espagne d'ailleurs, ils sont. Ce que disait aussi Julien sur son influence, c'est aussi ça qu'ils retiennent, c'est toute l'influence qu'il a sur les générations d'entraîneurs aujourd'hui, et surtout le fait qu'il a montré, prouvé à tout le monde que cette philosophie aussi espagnole de jeu pouvait avoir autant de succès à l'international, et que en fait aujourd'hui, je pense que les entraîneurs espagnols n'ont pas peur aussi d'aller conquérir ce genre de championnat et d'aller défier ce genre d'équipe qu'a défié Guardiola. Et d'ailleurs, c'est une grande fierté en Espagne de voir par exemple cette saison qu'il y a énormément d'entraîneurs dans les finales européennes, oui, qui sont espagnols.
Tiens d'ailleurs, ça poserait un problème ou pas que Guardiola prenne un jour la sélection espagnole, Edgar, par rapport à catalanisme, ouais, son régionalisme.
C'est quand même particulier parce que par exemple un Luis Enrique est lié au Barça, lui il vient pas de Barcelone initialement, il a pas ce côté catalan, donc c'est vrai que Guardiola a toujours beaucoup parlé, comme le disait Polo, de son identité catalane. Je pense que ça ferait quand même grincer certaines dents. Maintenant, c'est un tel coach que si un jour la sélection a besoin d'être reprise et que t'as Guardiola qui est disponible et qui est chaud et que c'est le défi de sa vie et que derrière il fait gagner la Coupe du Monde au pays, je pense que il y en a beaucoup qui seront contents de le voir gagner une Coupe du Monde, mais il y en a aussi beaucoup pour qui peut-être la politique et l'identité est plus importante que le football ou autre, qui seraient peut-être gênés effectivement de le voir à cette position-là.
On n'a aucune piste, rien du tout, hein, Julien, sur l'avenir de Guardiola. Il n'a absolument rien dit pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il veut faire.
Non, mais après quand on le connaît, je pense qu'il prendra un petit peu de temps pour lui, et puis il a bien raison d'ailleurs,
c'est le temps qu'il a quand même bien fatigué. 94 ans aussi,
tout à fait, qui était là hein, d'ailleurs, ouais, qui était là et qui pouvait pas ne pas voir ça. Et puis après, moi je suis convaincu que son avenir ce sera en sélection. Il peut pas vraiment aller, alors il peut aller chez Daniele, mais je sais pas pourquoi je le vois pas trop en Italie là maintenant en ce moment, et je pense plus à une sélection, je sais pas laquelle hein, sincèrement, à mon avis c'est ce qui l'intéresse le plus aujourd'hui.
Espagne, Argentine peut-être, pourquoi pas, ce serait magnifique.
Voilà. L'Italie, aurait la tâche de reconstruire
tout
le
système. Non, je pense pas. T'y crois? Pourquoi pas, hein?
Non. L'Italie, on y croit un peu. C'est-à-dire, il y a certains journalistes qui disent qu'ils ont...
Ah, c'est un beau défi, hein. Ce serait un beau défi.
Oui, mais voilà, je pense pas.
Daniel, justement, tu gardes la parole, puisque on va parler du Milan. Gros dossier ce soir sur le Milan, qui n'avait que la Serie A à jouer cette saison. Le Milan qui était dans le top 4 depuis la deuxième journée de Serie A. Le Milan qui recevait Cagliari à San Siro, qui ne jouait absolument plus rien. Et il y a le Milan qui perd 2-1 à domicile et termine 5e du championnat. Crash assez rare dans l'histoire du Milan. Daniele, comment est-ce vécu depuis hier soir? Et on va parler bien sûr de Allegri qui a été viré, dégagé il y a quelques minutes.
Pas seulement Allegri.
Oui, tout le monde. En fait, c'est tout le monde.
Oui, c'est toute la... C'est le PDG, on va dire Furlani, c'est Moncada qui c'était le directeur technique, c'est Iglitaré qui c'est le directeur sportif, donc celui qui a fait le mercato, et Allegri qui c'est l'entraîneur qui avait choisi Taré. On ne sait pas encore qui va arriver. Les supporters ils sont pas contents parce que dans cette communication des Redbirds, donc des Cardinali qui c'est les propriétaires de Milan par ces fonds d'investissement américains, il n'y avait pas le nom d'Ibrahimovic que les supporters supportent plus, justement parce que les supporters supportent plus parce que c'est vu comme un coupable dans les dernières semaines. On a eu des rumeurs selon lesquelles Ibrahimovic il envoyait des textos à des joueurs de ne pas suivre les indications d'Allegri, et on sait qu'il a un sale caractère, il s'est disputé, vous savez, il y a Ignacio Abate, c'est un ancien joueur de l'AC Milan qui a fait une belle saison en Serie B, il a même joué les playoffs, il vient de se faire sortir, je me souviens pas contre qui, mais lui il avait une petite équipe, la Juve Stabia, il a fait un espèce de miracle, et donc les supporters de Milan ils se sont dit mais pourquoi on n'a pas abatté chez nous, chez les jeunes et tout, ben parce qu'il faisait pas jouer le fils de Ibrahimovic.
Ah
ça
oui.
C'est au moins oui, et donc Ibrahimovic l'a viré, donc ça c'est les rumeurs au moins, hein, ils se sont disputés, donc les supporters ils sont pas contents de ça parce qu'il allait voulu vraiment partir, voir partir tout le monde. Après, ça s'explique parce que c'est une équipe qui joue pas au football depuis longtemps. On a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la saison, du fait que les matchs de Milan, c'était de plus en plus pénibles. Moi, j'étais de plus en plus parce qu'au début, quand il y avait Modric, Rabiot, il y avait un peu d'énergie. Quand même, les joueurs, ils étaient pas mal. L'équipe, elle était pas mal. Mais là, dans les dernières semaines, tout est parti. Bah, alors, je vous donne juste une donnée, si vous voulez. Moi, je pense que c'est assez explicatif. Dans les dernières 12 matchs, le AC Milan a pas marqué un seul but sur action. C'est-à-dire seulement sur coup franc, au jeu de pied arrêté, penalty, des choses comme ça. Donc, imaginez qu'est-ce que ça veut dire la stérilité de ces jeux-là. Jamais ils ont seulement la dernière journée de la saison, ils ont sorti de première 4 places. Jamais avant les derniers matchs contre Cagliari, ils ont été remontés en saison. C'est-à-dire s'ils marquaient les premiers buts, jamais ils ont perdu. Et là, ils ont marqué après 2 minutes. Donc on pensait bon, le Milan il a fait ce qu'il devait faire, il va aller en Champions League, et ils se sont fait remonter par une équipe qui était déjà sauvée. Donc ça manque les mentales, ça manque les jeux, ça manque les performances individuelles, ça manque la motivation, ça manque tout. Donc on comprend aussi un peu parce que ils ont tout changé. Et après, les grands coupables, c'est Allegri, bien sûr. Il faut pas se cacher. Il y a beaucoup de journalistes, Adani, qui c'est un vieux ennemi de Allegri, mais pas seulement lui, qui sont très, très contents de voir Fabregas avancer, de passer justement devant le Milan à la dernière journée. Parce que c'est un peu le conflit entre les beaux jeux et...
Oui, alors, est-ce que finalement, on se dit que c'est une bonne nouvelle pour le football, cette histoire-là, en Italie? Est-ce qu'on le commente comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux de voir Allegri échouer et le Milan avec?
Justement, ça dépend du point de vue. Comment Fabregas, ils ont pas beaucoup de supporters, en dehors des supporters de Como, bien sûr. Pour plusieurs raisons, parce que ils ont pas beaucoup, ils avaient pas un seul joueur italien. Après, le AC Milan, ils avaient 2 joueurs. La Juventus, ils ont 2 joueurs italiens.
Oui, c'est pas énorme. Donc, c'est non plus. Pas, oui.
Non, ça change pas grand chose. Fabregas, il est vu comme antipathique, arrogant. Il y a eu les matchs contre le Milan où Fabregas, il a arrêté Salemakers sur la ligne des touches avec ses mains. L'arbitre, il l'a repris et Allegri, il lui avait dit que c'était un petit garçon qui était il a même utilisé des gros mots. Et donc voilà, il y a eu toujours ces partages entre la vieille école, cette gérontocratie qui en Italie règne encore aujourd'hui, cette espèce de tradition qui n'existe pas, et les changements que les gens aiment pas. Mais moi, je pense que oui, il y en a beaucoup qui disent bon, au moins, on a vu qu'avec les beaux jeux, on peut avoir des résultats, même si on a une équipe. Qu'elle n'est pas plus forte, parce qu'il faut toujours se rappeler de l'argent aussi que les Milan dépensent tous les ans.
Bon, en tout cas, Allegri viré. Certains l'envoient déjà à Naples. T'as vu ça également? C'est crédible ou pas?
Oui, apparemment, oui, parce que Conte, il a dit que ça fait déjà un mois qu'il a notifié à De Laurentiis qu'il voulait partir. Donc, on imagine que De Laurentiis, il avait pris un peu, des mesures, il avait commencé à parler. Il n'y a pas énormément d'entraîneurs disponibles. Et Allegri à Naples, on parlait de lui même avant Conte. Donc, c'est tout à fait faisable. Moi, je pense que c'est pas bien pour Naples, mais après, si on voit les noms en Italie, on dirait qu'il y a un manque de fantaisie toujours. Il y a Sarri qui vient de partir aujourd'hui de la Lazio, et toujours il va être remplacé chez l'Atalanta.
C'est dingue, c'est les 4-5, c'est comme les acteurs dans le cinéma français, c'est toujours les 4-5 même qui tournent, quoi. Oui, c'est fou.
Il y a Gattuso, on parlait pas de lui, mais Toutou, avant qu'il prenne l'équipe nationale, il a fait faillir parce qu'on ne s'est pas qualifié, on a perdu contre la Bosnie. Et du coup, il devient le nouveau entraîneur de la Lazio. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On ne comprend pas.
Voilà. Daniele,
vas-y, Apollo.
Moi, il y a quand même quelque chose qui me perturbe avec le Milan. Tu as cité une statistique. Moi, je suis plein d'effroi lorsque tu me dis que le Milan n'a que marqué que sur les phases de jeu arrêtées lors des dernières rencontres. Je transpose le Milan en Bundesliga. Il est impossible de ne pas produire du football et de vraiment produire du spectacle pour les supporters. Et la deuxième chose, moi, qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que le Milan est devenu un club où, justement, qui est une horreur, les dirigeants dirigent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de faire de la gestion du club. On a Ibrahimovic qui est là, on aime ou on n'aime pas le personnage, etc. Et que le sportif est de l'autre côté. Et moi, je peux t'assurer que le Milan AC, qui doit systématiquement se qualifier pour la Ligue des Champions chaque saison, serait en Bundesliga, le président du club ou de l'association ou les dirigeants les plus importants auraient poussé une gueulante extraordinaire par rapport à la statistique que tu viens de sortir. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même que moi je sais pas qui est le capitaine du Titanic Milan AC en ce moment, quoi.
Ben c'est Cardinale qui c'est les propriétaires. C'est Redbird, cette société américaine que les supporters aiment plus parce que justement ils disent qu'il y a un détachement avec les supporters. L'année dernière, l'AC Milan, ils sont arrivés, je me souviens pas, mais je pense 8e, un truc comme ça, mais en dehors de toute compétition européenne. Mais cette saison-là, pour les supporters, c'est des opinions des supporters sur les réseaux ou quand on parle avec eux. Cette saison-là était pire. Il n'y a jamais eu un détachement si fort entre la société et les supporters et l'équipe comme il y a maintenant. Et ils étaient deuxièmes il y a 2 mois. Ils ont battu l'Inter dans les derbies et on parlait même d'aller peut-être essayer de gagner les championnats. Donc on comprend comme les choses changent vite, mais aussi de l'énorme dégât qu'il est arrivé à faire Allegri dans les dernières 10 journées. Mais si on fait 10 points dans 10 journées, on comprend que c'est une équipe qui va descendre en deuxième division.
Eh oui, mais sa cote est toujours là, il va retrouver un club, toujours rebondir. Oui, Polo, tu voulais rajouter un truc rapidement?
Non, moi j'appelle ça un déclassement, parce que ça fait 2 ans quand même. Ouais. Et il faut faire attention, parce que moi, depuis des années, je pense qu'il y a un championnat entre la Bundesliga, la Liga espagnole et l'Italie qui va décrocher complètement. Et aujourd'hui, les signaux les plus alarmants nous proviennent d'Italie, et moins d'Espagne et moins d'Allemagne. C'est ça, moi, qui m'empêche, moi, dans cette logique de concentration du football européen. Donc...
Après, il y a des bonnes nouvelles, comme par exemple, comme la Rome, ils ont fait des investissements, ils ont une vision, ils ont choisi un entraîneur qui n'était pas simple, ils ont dû virer un personnage très aimé par les supporters comme Ranieri pour supporter l'entraîneur. Donc il y a des équipes qui essaient, même s'ils ont un propriétaire étranger comme Friedkin, un autre américain, mais ils essayent d'écouter les supporters, ils essayent de bâtir avec des principes qui vont un peu au-delà de il faut gagner ces matchs, on va gagner le prochain et tout ça.
Bon, voilà. Donc, championnat terminé, qualifié pour la Ligue des Champions chez toi, Inter Milan, Naples, AS Rome, Côme. On va parler de Côme tout à l'heure. Pour la Ligue Europa, 2 monuments, AC Milan, Juve en Ligue Europa pour ta saison prochaine en Coupe d'Europe, mon cher Daniele. Pour l'Angleterre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais faut-il le rappeler, Arsenal, City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, qualifié pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa, Bournemouth, Sunderland et Brighton pour la Conférence League. La première minute de la soirée, elle va nous faire vibrer la corde nostalgique, c'est une drôle de dame, c'est Edgar Grollo. On envoie le musique, Polo.
Toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormir.
la noche en la calle du groupe Amaral, qui est très attaché à la ville de La Corogne. Et ce qu'il nous raconte dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le fait de profiter de toute sa soirée dehors, de sa nuit, de ne pas penser au lendemain et de se dire que c'est pas grave. Le lendemain, on ira à la plage, on ira dormir, on dormira demain. D'abord, on profite. Et c'est la mentalité qu'ont eu les supporters du Deportivo La Corogne. Ils ont attendu jusqu'à 4h du matin dehors pour fêter avec leurs joueurs. 12 000 personnes sont restées au centre-ville de La Corogne et les joueurs ont été accueillis comme des rois parce que le Déport a validé sa première montée depuis 8 ans hier en allant son retour en tout cas en Liga depuis 8 ans en allant gagner à Valladolid hier soir même à Madrid, hein, pour vous dire j'ai croisé quelques maillots du Déport, ce qu'on voit pas forcément très souvent ici dans la capitale. C'est un club mythique, bien sûr, des années 90 et 2000, le fameux Super Déport qui a terminé champion d'Espagne en 2000, qui a gagné deux Coupes du Roi, qui a terminé demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2004. Et maintenant, ce Super Déport, il est de retour en première division après des années très compliqué parce qu'il a passé quand même 4 ans en 3ème division espagnole entre 2020 et 2024. Et ça, en Espagne, c'est pas du tout anodin, hein, puisque c'est le seul club qui a gagné la Liga et qui a aussi joué en 3ème division, c'est-à-dire qui a gagné et qui ensuite est descendu loin de la première division, loin même de la 2ème division. C'était jamais arrivé avant. Et donc la saison prochaine, on aura enfin donc le retour des 9 champions d'Espagne ensemble en Liga. On aura aussi le retour du derby galicien Celta de Vigo, Deportivo La Corogne. Et en plus de tout ça, on aura aussi un autre club historique qui fait son retour en Liga, le Racing Santander.
Voilà pour la minute sur La Corogne, le Super Déport. Julien, c'est notre génération, forcément. Quand je te parle du Super Déport, tu penses à qui, toi, par exemple, spontanément?
Ah, bien sûr.
Tu penses à qui?
Brandiani, Calminia, bien sûr, tout ça. L'équipe qui sort le Milan en Ligue des Champions avec ce
remontada
incroyable.
Naïbet,
incroyable, bien sûr, aussi. Quelle équipe, le maillot, tout.
Il y avait Scaloni aussi. Lionel Scaloni qui était dans cette formation-là, sélectionneur de l'Argentine. Nostalgie. Voilà, Jacques Songo, bien sûr, dans le but. C'est l'heure, c'est le top inscription.
Ça joue, on joue.
5 minutes pour jouer et envoyer liste au 732-16, liste au 732-16. Et essayer de gagner un des 26 cadeaux de la Coupe du Monde, bien sûr. Vidéoprojecteur, maillot des bleus, ballon officiel par exemple, boîte Lego du trophée, 10 000 euros, pourquoi pas également. 5 minutes jusqu'à 20h38 pour jouer. Puis je vous rappelle que vous pouvez assister demain en direct ici à la Nouvelle Voix de l'After, la finale. Vous pouvez aussi appeler le 32-16 Max Vato Standard si vous voulez vous inscrire. Dans un instant, on parle de Gérone, qui passe de la Ligue des Champions à la D2 en un an en Espagne. Et puis d'un barrage qui a commencé dans une folle ambiance en Allemagne. Barrage d'accession, il y a déjà eu un but. Polo nous en dit plus dans un instant, reste avec nous. Et dans le Dames sont sur RMC comme tous les lundis soirs, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Polo, Edgar, Julien et Danielé. On est ensemble jusqu'à 22h. D'ailleurs, de 21h30 à 22h, on va faire le bilan. Chaque drôle de dame va nous donner son 11 de son championnat anglais, espagnol, allemand et italien. On essaiera de faire un 11 type européen ensemble. N'hésitez pas à l'envoyer également sur le chat de la chaîne YouTube, également sur le numéro WhatsApp 0612 424 424. Polo, il y a un match qui a démarré chez toi, c'est les meilleurs matchs de fin de saison, les matchs à la vie, à la mort, barrage d'accession en Bundesliga entre Paderborn et un monument de ton football de Bundesliga, Wolfsburg. L'ambiance a l'air magnifique, mon cher Polo, le stade
n'est
pas moins, quoi.
Le Home de Luxe Arena et ses 15 000 places, donc on va dire un format Zweite Liga, deuxième division. Et puis il se passe tout simplement ce qu'il se passe depuis longtemps lors de ces barrages, lors de ces relégations de Spiel, comme on dit en allemand, c'est que c'est l'équipe théoriquement la plus forte sur le papier, donc l'équipe de Bundesliga, qui dès le début de la rencontre ouvre le score dès la troisième minute par Pepchinovic, qui est un grand espoir du football allemand en attaque. Et c'est extraordinaire parce que c'est l'histoire des relégations en fait que l'on voit là. Moi, je suis un grand fan de ce format des barrages, pour une raison bien simple. C'est pas le barrage en lui-même, c'est le fait que celui qui est 18e ou 17e peut toujours se raccrocher à la 16e place, et le 15e doit faire attention de pas être 16e, etc. Et le 16e veut être 15e, 14e, etc. Et donc, en général, on se bat. On l'a encore vu cette année avec Heidenheim qui a failli s'en sortir lors de la dernière journée, ou qui a été relégué qu'à la dernière journée. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il y a des critiques assez importantes en Allemagne sur ce format, puisque depuis 2009, où il y en a eu 17 pour l'instant, c'est le 18e barrage. Et c'est quand même largement à l'avantage de l'équipe de l'élite allemande, dans l'équipe de Bundesliga, qui mène 14-3 lors de ces rencontres. Donc on se dit, bon bah finalement le barrage c'est pas si intéressant que ça, parce que l'équipe de deuxième division, bah en gros, elle a 90% de chances de rester en deuxième division. Sauf que on se rend compte que sur les 18 matchs disputés depuis 2009, lors du match aller, on se déplace toujours à l'aller chez le club de l'élite allemande, de Bundesliga, et ben 12 fois les résultats sont positifs pour les clubs de seconde division, mais ils explosent toujours lors du match retour. On l'a encore vu il y a 2 ans, je vous rappelle, Düsseldorf, c'est qu'un truc de fou, l'emporte 3-0 à Bochum, on se dit bon bah Düsseldorf va monter, et Bochum l'emporte au match retour 3-0 à Düsseldorf, donc devant 54 000 personnes, et l'emporte finalement au pénalty. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est étrange, comme s'il y avait une forme de fatalité, que l'équipe la plus forte, puisqu'évidemment sur le papier, celle de Wolfsburg est supérieure à celle de Paderborn, 243 millions de chiffre d'affaires d'un côté, de résultats, de chiffre d'affaires, pardon, et pour 40 millions pour Paderborn. Mais c'est toujours intéressant, maintenant c'est que le début de la rencontre, on va voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, moi je suis un fidèle de ces barrages, encore une fois, non pas, sauf quand je l'ai vécu évidemment en 2019 avec Union qui jouait Stuttgart, 2-2, 0-0 au match retour, donc Union est passé, mais il y a toujours un truc, et surtout, ça anime les championnats, et je pense que c'est plus important que le barrage en lui-même.
Bon, barrage, seul parmi les top 5 européens, la France et l'Allemagne partagent le même format de barrage, hein, justement. Dans les autres championnats, c'est entre équipes de la même division. Division 2, en l'occurrence, un championship. Ou...
Mais moi, ça me choque, ça.
Ah oui ?
C'est plus un championnat, au bout d'un moment.
Oui, t'as raison. Oui, tu ne refais pas un mini championnat derrière entre,
bah ouais,
entre ceux qui aspirent à monter, quoi, bien sûr. Bon, voilà, il n'y en a pas en Espagne de barrage, mon cher Edgar, chez toi.
Il y a les playoffs.
Il y a les playoffs.
Pour monter.
Il y a les playoffs pour monter uniquement. T'as d'ailleurs ton classement final. Voici Barça, Real, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis en Ligue des Champions, Celta Vigo en Ligue Europa, Retafe en conférence. Bravo, monsieur José Bordalas. Tu veux dire
Real Sociedad aussi qui sera en Coupe du Roi.
En Coupe du Roi.
Qui a gagné la Coupe du Roi, pardon, et qui sera donc en Ligue Europa.
En Ligue Europa. Tu voulais parler de Gérone et la terrible chute de Gérone, justement, de la Ligue des Champions, oui, à la relégation, club du Citigroup, bien sûr, qui jouait encore avec le gratin européen il y a 2 saisons et qui se retrouve aujourd'hui, bien condamné à la descente.
Oui, exactement, et surtout quand tu regardes où ils en étaient il y a quelques semaines, on pensait que c'était fait, qu'ils allaient se maintenir, ils étaient à 37 points à la 30e journée, et puis ils enchaînent 8 matchs sans victoire pour terminer la saison, et je pense que c'est une équipe qui tout simplement n'était pas construite pour ce genre de moment. Déjà quand tu regardes l'effectif, ils ont un meilleur effectif par exemple que les deux autres équipes qui descendent, Oviedo, Mallorca, mais aussi que d'autres équipes qui se maintiennent, et ça te dit plusieurs choses. Ça te dit déjà que t'as des joueurs qui ne sont pas forcément au niveau, d'une équipe qui n'a pas été au niveau où elle devrait être. Ça te dit aussi que dans l'attitude, c'est une équipe qui a pas mis les ingrédients tout simplement pour se maintenir comme ont pu le faire des Levante, des Elche par exemple. Et ça te dit aussi que je pense que c'est aussi la responsabilité avant tout du coach, de Mitchell. Il l'a dit lui-même, il se sent extrêmement responsable de cette descente, parce que alors il y avait un très mauvais début de saison, il a réussi à un petit peu à renouer avec le succès en milieu de saison, et derrière il a reperdu son groupe. Et j'ai vraiment l'impression, je lisais ça aussi dans le Mundo Deportivo hier, qui analysait un petit peu la descente de Gérone, et eux ce qu'ils disaient c'était que l'une des raisons pour laquelle Gérone descend, c'est aussi parce que le coach Michel n'a pas réussi à se remettre en question, qu'il a une idée de jeu qui est claire et qui ne s'est pas adapté, même quand ça ne marche pas. Et par exemple, ce dernier match face à Elche, parce qu'il y avait donc un match à la dernière journée où Gérone devait battre Elche pour se maintenir. Et ils avaient juste à battre Elche, entre guillemets, juste à domicile. Elche était devant. Et finalement, Elche, qui a aussi une philosophie de faire le jeu, mais c'est Elche qui a fait le jeu la majorité du match. Et c'est pas une volonté de Gérone de ne pas faire le jeu, c'est tout simplement qu'il arrive pas, qu'ils arrivent pas à mettre les ingrédients cette saison. Et même contre des équipes qui sont dans une situation similaire à eux. Et pour moi, l'incapacité de Mitchell à changer, à trouver des solutions, à trouver autre chose à aller chercher quand il sent que c'est vraiment vital pour maintenir, ça aura coûté cher à son équipe, même si on peut pas lui en vouloir qu'à lui, quand tu vois les occasions qui sont manquées sur les dernières semaines, quand tu vois, on en parlait déjà la semaine dernière, l'incapacité à marquer, l'incapacité aussi à être décisif dans les deux surfaces, le nombre d'erreurs individuelles qu'il a pu avoir à travers la saison défensivement, ce sont des choses qui paye, qui coûte très cher quand tu joues un maintien, et c'est un terrible contre-coup pour Gérone qui, on le rappelle, jouait la Ligue des Champions la saison dernière, qui est avec le City Group, qui a des moyens, surtout qui a des bons joueurs, qui est censé faire le jeu. C'est une équipe qu'on aime bien voir jouer généralement, mais cette saison c'était vraiment compliqué.
Bon, voilà. Dans le même temps, dans le City Group, l'Estac 3 monte en Ligue 1. Je sais pas, ça peut consoler les patrons du City Group. En tout cas, c'est le cas.
Et si tu veux, Nico, il y a le Palermo, qui est toujours le groupe, qui a failli la monter en Serie A. Ils sont sortis contre Catanzaro en play-off. C'était une équipe bien plus faible, qui maintenant elle a déjà perdu la finale d'aller contre Monza. Donc, Palermo aussi, ça fait 2-3 ans qu'il devrait monter, il ne monte pas.
Tiens, Mouriki, on me pose la question sur le chat, qui est relégué aussi hein, avec son équipe de Majorque. Va-t-il rester à Majorque ou pas, Edgar? C'est une question qu'on se pose là.
Non. Enfin, ça me paraît compliqué.
23 buts cette saison, 32 ans.
Je pense qu'il y aura forcément une très bonne équipe qui va le prendre, au moins pour être un deuxième numéro 9 ou un point d'appui ou quelque chose. Il y aura forcément une bonne équipe qui va aller chercher, je pense.
Bon, mon cher Polo, il s'est passé un truc important dans ton match de barrage, puisqu'un joueur de Wolfsburg, Mêle, a été viré par l'arbitre. Oui.
Ce qu'on appelle un Gelbrot, un jaune, puis un deuxième jaune, et finalement il est exclu. Donc voilà, on se retrouve avec les joueurs de Wolfsburg qui ne sont plus qu'à 10 sur le terrain. C'est assez équilibré pour le moment. Évidemment, la qualité technique des joueurs de Wolfsburg est supérieure, mais voilà, je pense que la soirée risque d'être longue pour les Wolfen, les loups de Wolfsburg.
Ouais, si on reste avec intérêt, bien sûr, mon cher Polo. Alors, et du tennis également qu'on suit avec intérêt, c'est peut-être la dernière de Gaël Monfils à Roland Garros. Les yeux d'Eric Salio. Bonsoir Eric. Eric Salio est là. Il est là Eric Salio.
Bonjour.
Bonsoir.
C'est bon,
Eric.
Casse, c'est là. C'est bon.
On est là. C'est bon. C'est bien. Ah, c'est bien.
J'étais con, trompé de casque.
Alors, est-ce parti pour être la dernière Gaël Monfils à Roland Garros?
Ah bah, on va être fixé dans quoi? Dans une heure et demie, deux heures déjà. On aura de bons indices. C'est parti depuis 14 minutes donc sur le châtrier entre Gaël et Hugo Gaston. Deux jeux un pour le gaucher toulousain. Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué un match officiel, Gaël, et ça se voit un petit peu, franchement. Mais bon, on peut lui faire confiance pour retrouver ses marques rapidement. Donc, mais oui, on va peut-être pleurer dans.
Ah, tu vas pleurer, bien sûr.
Non, on a déjà eu les adieux déchirants de Stan Wawrinka. Mmh. C'était sur le cours des
Qui avait été battu par Hugo Gaston sur le central, d'ailleurs, il me semble.
C'était pas le central, il me semble.
Non, c'est l'Anglaine, c'était pas l'Anglaine. Il l'avait battu.
L'année où il faisait 3 degrés.
Ouais.
On jouait sur de la boue.
Exactement.
Ah oui, tu t'en
souviens. C'était un Covid, je crois, non, il me semble.
Ouais, je pense.
COVID, c'est ça, 2020.
Ouais.
Ok, Eric, on suit ce match avec toi.
Oui.
Demain pour l'instant, pour Hugo Gaston.
Demain, Gaël est au service.
On revient dans un instant. Pourquoi Antonio Conte quitte le Napoli? Daniele va nous répondre, bien sûr, avec une conférence de presse extraordinaire du cinéma italien, presque du Fellini. On va écouter ça dans un instant. Reste avec nous, avec les 4 dans le Dame sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les 4 drôles de dames, toujours 1-0 pour Wolfsburg face à Paderborn. Polo suit ce match avec attention, match de barrage d'accession à la Bundesliga. Alors, le Napoli, Daniele, quel régal. Antonio Conte n'est officiellement plus l'entraîneur du Napoli. 2 saisons, 1 scudetto, une 2e place. Ciao Antonio, on va parler de l'avenir dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on écoute Daniele, ce moment savoureux. Le duo De Laurentiis, patron du Napoli, propriétaire, et Antonio Conte, côte à côte en conférence de presse après la victoire 1-0 contre Dinamarca. Le Napoli termine deuxième. Écoutez, bon, on a un peu joué la comédie, mais ça donnait ça.
Que se noi non avessimo avuto gli incidenti e gli infortuni che abbiamo.
Sans les blessures, tu aurais encore tranquillement remporté le championnat.
Mais absolument pas.
Mais comment ça? Non, je te dis que si.
Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Il faut reconnaître les mérites de l'Inter, qui est une grande équipe. L'an dernier, elle a atteint la finale de la Ligue des Champions. Et cette année, elle s'est même renforcée et elle a mérité de gagner.
Ha meritato di vincere, noi anche con gli infortuni.
L'Inter est tellement une grande équipe qu'en Europe, elle a fait moins bien que l'an dernier.
Elle a fait mieux que nous. Elle a passé la phase de ligue, elle, pas nous.
Bon, mais ça, c'est une autre histoire.
Désolé, mais m'accrocher à ces choses-là, ça me plaît pas. Il faut reconnaître la victoire des autres et avoir du respect. Si on veut du respect, il faut en donner. L'Inter a mérité, avec blessure ou sans blessure. Peut-être que sans blessure, on finissait même hors de la Ligue des Champions.
Quegli infortuni ci hanno compattato ancora di più.
Qui est le responsable communication du Napoli, mon cher?
Exceptionnel, cet acting là.
Qui fait quoi?
Ouais, pour l'Oscar, on attendra quand même.
Ah, bravo.
Ah bon? On applaudit là. J'ai tout donné, Julien, t'es dur là, franchement.
Nico, vous l'avez soumis au Festival de Cannes ou pas?
Oui, non, justement, mais pourquoi il n'est pas à Cannes? Non, lui va au Festival de Caen, lui. C'est pas pareil, mais c'est bien aussi. Hein.
Quel enfoiré. Bah. J'étais assez fier de moi en plus, c'est dommage. Mais bon,
Daniel, c'est pas mal, c'est pas mal.
Comment c'est possible en fait que ça se produise en fait, devant les caméras, les micros de toute l'Italie, que le patron s'échappe avec son entraîneur, même si c'est fini, on le sait.
Mais bon, écoute, c'est pas la chose la
après, pire. Il a pris du cinéma de Laurentiis dans sa vie, hein, c'est son métier.
Oui, il aime bien le cinéma. Peut-être c'est un de ces artistes qui mélange la vie et le spectacle. Une fois, quand il n'a pas aimé comment ils ont fait les calendriers, il a sorti les gros mots, il est sorti de la réunion. Il y avait des caméras, bien sûr, qui le voyaient. Et il est monté sur le scooter de quelqu'un qui passait par là. Et il s'est fait amener, on ne sait pas où, on n'a jamais compris où. Donc ça, c'est des coups de spectacle que De Laurentiis, il est capable de faire. Donc ça, c'est pas les pires. Et toi, t'as très bien récité, c'est quoi, félicitations. Mais eux, ils n'ont pas du tout récité. Hein. Ça, c'était pas du tout préparé. Là, on voit très bien les conflits entre les deux personnalités. Et aussi, Conte, il dit une chose intéressante. Parce qu'il dit peut-être que si j'avais eu toute l'équipe disponible, je ne me serais même pas qualifié pour la Ligue des Champions. Ça, c'est intéressant. Parce que là, le Naples, il a eu beaucoup de problèmes, des blessures et tout ça. Mais ils sont arrivés à s'en sortir. Il a toujours trouvé des solutions tactiques. Conte, moi, je pense franchement qu'il a mieux fait des secondes en Italie aujourd'hui. Mais quand il a eu toute l'équipe à disposition dans ces dernières journées, et notamment après la sortie de la Champions League aussi, il avait moins de matchs, il était plus tranquille, les choses ne se sont pas améliorées. Donc on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est cassé entre Conte et Naples. On n'a pas compris pourquoi il est parti. Les supporters de Naples, et lui, il a dit à un certain moment, il a dit, moi je pars parce que je ne suis pas arrivé à souder l'ambiance. Comment dire, le climat, les supporters. Il a dit, il y a des gens qui écrivent mal contre Naples pour des likes. Mais on ne va pas quitter un club, on ne va pas renoncer à 8 millions, parce qu'il a renoncé à 8 millions, pour des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Je pense qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Il y a là, peut-être, moi je suis là un peu plus tendant à croire à la possibilité de l'Italie, parce que Conte, il a déjà fait l'Italie, il a très bien fait, on a des très bons souvenirs. Donc peut-être qu'il avait déjà dans la tête ce qui allait se passer après, mais on n'a pas compris pourquoi il est parti. Ils sont arrivés deuxième, ils ont gagné une super coupe d'Italie. L'année prochaine, il aurait pu bâtir à partir de ce qu'il avait fait cette année. Il avait une équipe solide, il allait récupérer Anguissa, De Bruyne peut-être, pas pour toute la saison, mais plus que cette saison-là. On n'a pas compris pourquoi il est parti. Il a dit, moi j'ai senti que j'étais arrivé à la fin du cycle. Je pense qu'il avait autre chose par la tête et on va le comprendre.
La sélection italienne peut-être dans les prochains jours. Voilà, c'est le grand favori pour reprendre la nationale et reconstruire cet immense chantier. Voilà pour Antonio Conte. Minute anglaise, on envoie la musique, Paulo. Minute anglaise, on m'écoute en régie ou pas? Merci. Lovers.
Pour finir bien, tu vois. Mais plus fort, Paulo, mais plus fort.
Ok, je serai pas acteur, je serai jamais.
C'est pas mon choix, sincèrement. Avant que Paulo éteigne la machine.
C'est le choix de qui alors?
C'est le choix des joueurs de Hull City, puisque c'est leur chanson, c'est la chanson que les joueurs de Hull City ont chanté toute la saison dans le vestiaire après les matchs. Vous pouvez trouver les vidéos, c'est vraiment sympa, sincèrement, la façon dont ils chantent et tout. Ça parle d'une histoire dans l'avant-saison, donc c'est la chanson d'Adèle, pardon, Someone Like You, qui même si c'est pas votre cam de musique, elle est connue quand même mondialement.
J'avoue, ça passe, franchement.
C'est la cam de tout le monde,
je peux être snob là-dessus.
Oui, mais bon,
ça me va, franchement, Julien.
Bah, chez Polo, je pense que c'est interdit, sinon.
T'es pas obligé de l'écouter tous les jours, mais c'est
vrai,
pas mal.
Tu dois m'écouter tous les jours déjà. Et par contre, la musique, oui, tu n'es pas forcé même de la mettre tout simplement.
Évidemment.
Et donc, c'est leur chanson parce qu'ils ont quand même réussi un exploit incroyable, ces joueurs d'Hull City. Ils avaient été maintenus en Championship la saison précédente à la dernière journée, à la différence de buts. Ils avaient le même nombre de points que l'équipe qui était descendue juste derrière eux. Et un an plus tard, ils sont en première ligue après cette victoire en finale des playoffs à la 95e minute, un but à zéro, un but d'Oli McBurney, l'ancien copain d'Edgar et de Las Palmas, qui a une histoire incroyable, que je vous rappellerai après, mais juste rapidement sur Hull City, parce que c'est vraiment une belle histoire. Alors après, qu'ils soient prêts ou pas pour la première ligue, que tout le monde leur prédit déjà de descendre et de gagner trois matchs dans la saison prochaine, c'est très possible. C'est une équipe qui pouvait pas recruter cet été, qui avait des gros problèmes financiers, qui avait recruté un joueur avant, ils n'avaient pas le droit. Enfin bref, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. C'est un effectif où finalement il y a pas beaucoup de talent, mais collectivement Jakirovic a créé un vrai bel état d'esprit et ils sont pas très beaux à voir, faut le reconnaître. D'ailleurs, la finale était catastrophique pour ceux qui l'ont suivi avant ou après la finale de Ligue des Champions des filles, notamment. C'était vraiment pas une belle finale. C'est l'équipe qui a, par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, en championnat, donc avant les playoffs, était la troisième pire équipe en termes d'XG dans tout le championship. Donc, en gros, ils se créent jamais d'occasion. On sait pas trop comment ils marquent, mais c'est souvent Oli McBurney qui marque. Et Oli McBurney, l'histoire incroyable d'Oli McBurney, c'est donc qu'il jouait à Las Palmas la saison dernière, mais il y avait une clause dans son contrat qui disait qu'en cas de relégation de Las Palmas, il redevenait libre sur le marché. Et vu le transfer ban, donc l'interdiction de recruter pour Hull City, ils ne pouvaient recruter que des joueurs libres ou en prêt. Et donc ils avaient leurs yeux sur Oli McBurney depuis déjà 2 mois. Donc à chaque défaite de Las Palmas, ils célébraient au club, le directeur sportif, le président, l'entraîneur, en disant oui, c'est génial, s'ils descendent, on va pouvoir aller le récupérer. Oli McBurney avait le choix entre Hull City et Sheffield United, son ancien club. Sheffield United bien meilleur que Hull City, même si eux ne montent pas. Sauf que l'entraîneur à l'époque, Ruben Seyes de Sheffield United, n'en voulait pas. Donc il lui restait que Hull City. Il y est allé, il a fait une saison fantastique, 17 buts, 8 passes décisives. C'est lui qui a amené donc Hull City 9 ans après leur descente de Premier League, qui déjà à l'époque avait été un événement de les voir monter à ce moment-là. Et ben là ils sont de retour, un miracle absolu.
Bravo Julien, très belle histoire bien racontée, qui a même dépassé la chanson d'Adèle, hein, qui faisait 3 minutes 40. Donc merci Julien, on n'était pas en retard du tout, tout va bien. Mais c'était intéressant de t'écouter quand même.
Merci.
Le tennis en 20 secondes avec Salio, on est également fils Hugo Gaston.
4 jeux à 2 pour Hugo Gaston dans cette première manche après une demi-heure de jeu. Et le Toulousain est au service, donc il peut faire 5-2.
Allez, reste avec nous dans un instant, la suite avec les drôles de dames. A tout de suite. Elle a fait mieux que nous, elle a passé la phase de ligue, elle.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la gauche.
J'ai toujours supporté l'After Foot. J'ai toujours, c'est mon équipe du corps.
J'ai l'impression que toute l'équipe est en train de se déliter.
Il n'y a aujourd'hui que Chelsea en Première Ligue qui peut être au même niveau qu'Arsenal en termes de physicalité. C'est physicalité en anglais, mais non, on dit pas ça. Je croyais que ça passait. Mais ça passe pas. Merci mon Nico.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Mais ça passe toujours pas, moi, Jean-Julien. Je sais que tu as essayé encore ce soir, mais toujours pas.
Franchement.
C'est l'essentiel. Faisait qualité. Voilà. Intensité. Exactement. Physique. Je ne sais même pas s'il y a un terme. Allez-y, proposez sur le chat. Julien Laurent, c'est là. Daniel Emanoussia aussi. Paulo Breitner également. Et Edgar Grollo, bien sûr. Tu te régales, Paulo, devant son match. Ton barrage d'accession, là, ça pousse sur le but du Verder. Hein. C'est chaud.
Exactement. C'est chaud. On enchaîne les corners et les corners. Moi, ce qui me rend toujours fou dans ces barrages, c'est quand tu vois l'effectif de Wolfsburg. Il n'y a que des internationaux. Oh, Grabara vient de te faire un arrêt extraordinaire.
Ouais,
là, c'est compliqué pour Wolfsburg qui, à mon avis, va changer de short à la mi-temps.
Si un but, Polo, tu balances un gros tour en langue originale. Tour en direct sur RMC. Après Julien qui a brillé en version originale la semaine dernière, je crois. Alors, les listes tombent les unes après les autres. On connaît la liste des Soul Lions, des Anglais. On en parlera dans un instant avec Julien. Est-ce que l'Angleterre se remet? Les absences de Foden, Palmer, Trent, Maguire, je pense un peu plus facilement. La liste de l'Espagne est tombée aujourd'hui. L'Espagne, championne d'Europe en titre, qui va essayer d'accrocher un nouveau titre mondial, en favori sûrement, ou un des favoris aux États-Unis. Elle est tombée. Et premier événement, Edgar, et c'est historique, il n'y a pas un seul joueur du Real Madrid.
Et ce qui est presque encore plus historique, c'est que c'est normal. C'est ça qui est dingue, c'est normal, il n'y a pas vraiment de... Alors, il peut y avoir un débat sportif, si Dino Huysen était allé à la Coupe du Monde, ça aurait pas été scandaleux, surtout qu'il a un profil un petit peu différent, qu'il est bon avec ses pieds, etc. Donc, ça aurait été compréhensible de le voir dans la sélection, mais finalement, quand tu regardes les 4 défenseurs centraux qui ont été pris devant Dino Huysen, ils sont meilleurs que lui cette saison, tout simplement, hein. Cubarsí, Laporte, Poubil, Eric Garcia. Donc, l'info, c'est quand même que Marc Poubil a été préféré à Dino Huysen, a été préféré référer aussi à Robin Lenormand qui a une saison un petit peu compliquée, alors que Lenormand, on le rappelle, était titulaire en finale du dernier Euro avec Aymeric Laporte. Ce qui est sûr, c'est que si c'était Didier Deschamps qui avait fait la liste de l'Espagne, ça aurait pas été la même liste, parce que la façon de réfléchir des deux sélectionneurs est très très différente. Mais tous les choix qu'a fait Luis de la Fuente, tout a un sens, tout est dans la continuité de ce qu'il a démontré depuis son arrivée dans sa réflexion. C'est une liste qui est complète, qui est équilibrée, qui est logique. On peut tout expliquer par A plus B, et notamment ce choix de ne prendre aucun joueur du Real Madrid. Bon, Carrera, ce n'est pas au niveau. Carvajal, on connaît la saison qu'il a passée, qui est très compliquée. Eddie Neusen aussi paye le prix d'une saison moyenne. Alors la saison était compliquée pour le Real Madrid, et elle l'a aussi été pour lui. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être beaucoup beaucoup mieux. Et je pense que c'est pas encore un joueur qui a forcément les épaules de jouer en mondial, donc ça c'est pas une surprise, surtout que les quatre défenseurs centraux à la place sont vraiment très très performants cette saison.
Ton milieu de terrain, Edgar, il fait peur quand même. Comment leur prendre le ballon à ces gars avant de leur voir Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Mikel Merino, Alex Baena, Atlético de Madrid. Sincèrement, si ouais. Champion du monde, c'est aussi grâce à ça. Devant la liste, on va les grainer dans un instant aussi, mais là il y a du ballon et il va falloir prendre le ballon dans les pieds de ces mecs là.
Bien sûr, il y a du ballon et tu peux enlever Fermín López aussi dans ce genre de profil, sauf si tu le considères comme un attaquant. Mais en tout cas, dans ce genre de profil technique, Fermín López qui est absent, qui est blessé. L'info au milieu de terrain, c'est Gavi.
C'est Merino, non ? Ah oui, Gavi, bah
Merino. Merino qui revient de blessure, il faudra peut-être parler notamment. C'est vrai que ça va être un enjeu pour l'Espagne du fait qu'il y ait trois joueurs qui aujourd'hui sont blessés. Nico Williams, Lamine Yamal et Mikel Merino. Donc c'est quand même une prise de risque, même si De La Fuente a précisé que tous ces joueurs-là allaient être prêts au moins soit pour le premier, soit pour le deuxième match du mondial. Mais il y a quand même un risque, surtout que ces trois titulaires potentiels. Mais ouais, la petite surprise, même si finalement dans les derniers jours on s'y attendait, c'est la présence de Gavi qui a pas une saison pleine de jeux, mais qui est
Einstein in Paderborn.
Je crois qu'il avait
éternué. Un Benvenia.
Je crois qu'il avait éternué. Vas-y, Polo, raconte-nous ça. C'est énorme.
Énorme. Un but partout après 38 minutes de jeu sur je me rappelle même plus tellement je suis dans l'émotion. Sur une touche côté droite. Et c'est Bilbilia, le super buteur qui l'année prochaine va sûrement jouer en Bundesliga. Pas forcément pour Paderborn, parce qu'il était en fin de contrat. On l'annonce dans différents clubs de Bundesliga. Qui égalise donc à la 38e minute. Tout est relancé.
Tor für Paderborn, ein, Polo, c'est reparti.
Ein, ja. Tor für Paderborn. Non, Tor in Paderborn, aber Tor für Paderborn.
J'ai peur pour Wolfsburg. On verra ça dans un instant, bien sûr. Alors, je te rends la parole, mon cher.
Ça m'a fait très peur de me faire couper comme ça en allemand. Là, c'était particulier.
Un éternuement. On aime bien. ça colle bien avec le commentaire d'un but, l'allemand. On disait quoi ? Utiliser bien sûr trois joueurs qui arrivent blessés.
En plus, mais non, mais
Gavi.
Gavi qui, c'est vrai, il n'a pas une saison complète, mais en même temps, son choix, là encore, il est complètement logique, parce que déjà, c'est un chouchou de la Fuente, et c'est aussi quelqu'un qui, dans la mentalité, apporte beaucoup. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui va apporter. Et je trouve que, aussi, par rapport aux trois joueurs qui arrivent avec des doutes physiques, là aussi, la liste, elle est logique, elle est réfléchie, elle a du sens. Parce que quand tu regardes les attaquants qui sont pris, tu sais que tes deux ailiers titulaires, Lamine Yamal et Nico Williams, vont arriver pas forcément à 100% physiquement, voire vont rater les premiers et deuxièmes matchs de la compétition. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'assures d'avoir des ailiers remplaçants qui sont des vrais ailiers, qui peuvent les remplacer, on va dire, en termes de profil, même si c'est pas du tout le même niveau et que c'est pas exactement les mêmes qualités. Mais tu prends Victor Muñoz d'Osasuna, tu prends Jérémy Pino, et c'est pas forcément les plus grandes stars de cette équipe, mais c'est des joueurs qui t'apportent en fait la profondeur d'effectif sans être les meilleurs joueurs d'Europe, les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est pas la même réflexion qu'il va y avoir dans d'autres sélections, et notamment à certains postes en équipe de France. Donc ça confirme vraiment toute cette idée de De La Fuente, qui est de se dire: je ne choisis pas le joueur en fonction du club où il joue, je choisis le joueur en fonction de ses performances et de ce qu'il va m'apporter. C'est pour ça par exemple qu'il se force force pas à prendre un joueur du Real Madrid, même si oui, médiatiquement, ça aurait peut-être été un peu plus simple pour lui de pas avoir de joueur de Real Madrid. Peut-être que AC Marca aurait pas râlé, mais il s'en fiche. En fait, lui, il veut des joueurs qui vont être performants. C'est pour ça que même un choix. Alors moi, le joueur sur lequel je suis le plus dubitatif dans cette liste, c'est Alex Baena par rapport à sa saison assez médiocre avec l'Atlético. Mais même lui le justifie en disant oui, mais Baena avec nous, il est toujours performant. C'est un joueur que je considère comme un joueur de sélection, un joueur sur lequel je compte. Donc même là, t'es en mode bon bah ok, il y a un ou deux joueurs que j'aurais kiffé voir dans cette liste. Fornals, Molero, j'aurais kiffé les voir. Mais je comprends qu'il ne soit pas.
Donc il n'y a pas de débat, pas de polémique chez toi en Espagne après l'annonce de la liste.
Il peut y avoir des débats, mais il n'y a pas de polémique. D'accord. Et quand tu regardes cette liste, tu te dis pas là il y a un manque ou là il y a un problème dans cette liste. Tu te dis ça, c'est une équipe qui est construite pour aller loin dans une Coupe du Monde.
T'as un 11 en tête ou pas qui se dégage tout de suite?
Edgar, oui, bien sûr. Vas-y. Alors ce qui est ironique, on parlera de.
On parlera des meilleurs 11 de.
Je pense que ça va être Unai Simon. Hein.
Unai Simon,
c'est le titulaire. Oui. C'est le titulaire. Donc ceci est une surprise. C'est quand même incroyable parce que on parlera du 11 de la saison en Europe. Peut-être que Raya et Joan Garcia seront nos deux choix pour le 11 européen. Donc c'est ça qui est dingue. Mais ça risque d'être Unai Simon qui commence. Après la défense, on peut l'imaginer. Alors Cucurella, c'est sûr à gauche. La défense centrale a priori, les deux qui partent titulaires, c'est Laporte et Koubarsi. Et puis à droite, Marcos Llorente. Au milieu de terrain, tu as Rodri, Fabian Ruiz, Pedri. Là aussi, ça peut changer au fil de la compétition, notamment avec Mikel Merino, parce qu'on sait que c'est un joueur très important. Est-ce qu'il peut revenir et changer un petit peu la donne? On suivra ça. Est-ce qu'il va jouer un peu plus haut? Il y a différentes options. Et puis, devant, Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal. Mais là encore, ça va dépendre de qui est en forme, de qui est blessé ou pas blessé. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, qui peuvent compléter en fonction des absents. Donc, c'est pas une inquiétude. Et t'as un seul joueur, en fait, dans cette sélection qui ne correspond pas au profil d'un autre joueur et qui donc ne se complète pas avec un autre joueur et qui est juste son profil à lui, c'est Borja Iglesias qui lui est pris pour le jour où t'as besoin de mettre de la taille dans la surface, de mettre un but dans les 15 dernières minutes, t'as Borja Iglesias qui va pouvoir rentrer, essayer de planter. Alors il a pas été en succès en sélection, mais peut-être que ça viendra un jour. Ça aurait pu être Carlos Espi aussi, mais finalement c'était un peu juste pour lui le jeune joueur de Levante.
En phase de poule, l'Espagne va affronter le Cap Vert le 15 juin, l'Arabie Saoudite le 21 et l'Uruguay le 27 juin prochain. Voilà pour l'Espagne. Mon cher Julien, ta liste donc, on en a un peu parlé la semaine dernière, mais posons-nous quelques minutes. Donc, on connaît les principales informations. Absence de Foden, Cole Palmer, Trent, Alexander-Arnold et Maguire. Est-ce que les polémiques sont encore vives chez toi, les débats aussi, ou ça y est, ça commence à se tasser, on commence à accepter les choix de Thomas Tuchel?
Non, ça continue. Alors l'avantage pour Thomas Tuchel un petit peu, c'est qu'hier c'était la dernière journée de championnat et que le week-end prochain il y a la fête de la Ligue des Champions, donc forcément on parlera beaucoup d'Arsenal et du PSG et tout ça, et de Crystal Palace mercredi, faut pas oublier, contre le Rayo Vallecano d'Edgar aussi en finale de la Conference League. Donc, mais dès que ce sera fini, on reparlera vite de sa liste, des choix qu'il a fait, alors du courage ou pas forcément du courage, hein. On a beaucoup parlé samedi, on a eu un débat très intéressant, si vous voulez le réécouter, avec David Glusman et Max et Kevin Diaz aussi, sur l'absence de Palmer et celle de Foden. Bon, Maguire, ça compte pas vraiment, mais sur celle de Gibbs White aussi, qui fait une année 2026 pour l'instant extraordinaire, qui a encore marqué hier d'ailleurs aussi, et pourquoi Tuchel avait fait ces choix là et sincèrement, après nous on le connaît, on sait très bien qu'il n'allait pas faire les choses comme tout le monde, parce qu'il fait jamais rien comme tout le monde, parce qu'il est têtu à souhait et aussi sûrement très courageux avec des grosses couronnes, et que de toute façon il n'allait pas accepter ce que d'autres auraient fait à sa place. Donc de toute façon, à partir de là, on savait très bien que ce serait une liste un peu comme ça là, et ça a été le cas.
Qu'est-ce qui te choque le plus, Julien? Qu'est-ce qui te choque le plus parmi ces absents là, parmi les quatre absents, lequel aurait dû y être selon toi réellement, quoi? Est-ce que t'en vois un, toi?
Moi, j'aurais pris Gibbs White. Je pense que l'énergie que ce genre de joueur là, alors je sais que c'est juste Nottingham Forest et qu'ils finissent 17e, et même s'il y a une belle campagne européenne, c'est pas un Foden, c'est pas un Palmer, j'en ai bien conscience. Mais moi, ce genre de joueur là, qui même sur 10 minutes va donner sa vie sur le terrain, qui est prêt à tout, qui est en plus dans une forme étincelante, moi j'emmène. Un joueur comme Jed Spence, par exemple, je comprends pourquoi il est là, parce que t'as besoin d'un peu de couverture en défense, parce que t'as quelques soucis au niveau des blessures d'un John Stones par exemple, peut-être, mais moi j'aurais pas pris Jed Spence par exemple, j'aurais pris un Lewis Hall qui mérite 100 fois pour moi d'être là. Trent, on l'avait expliqué, le rapport avec Bellingham, les problèmes défensifs, ça c'était pas bien passé avec Tourelle, donc à partir du moment où ça passe pas avec Tourelle, c'est normal qu'il soit pas là, mais c'est vrai que pour Palmer et Foden, moi, malgré leur talent incroyable, sur la saison qu'ils font, ça me choque pas du tout.
Mais Maguire, sincèrement, toi, ça te paraît évident qu'il y soit pas, c'est un taulier.
Moi, ouais. Moi, j'ai jamais été fan, hein.
On a compris, mais c'est un homme qui, dans des matchs importants, à émotion forte, intense, arrive à se dépasser. C'est un peu une âme de la sélection, quasiment 70 sélections, titulaire en 2021 sur la finale de l'Euro. Je sais pas. Je trouve que le procès que tu lui fais est un peu excessif. Julien, je pense qu'il représente quelque chose de cette sélection également.
Moi, je pense pas que tu amènes Maguire pour être remplaçant déjà, donc il aurait jamais été titulaire.
Il aurait posé aucun problème en tant que remplaçant, non? On est d'accord?
Je sais pas qu'il aurait posé de problème, mais Tourelle, par exemple, a beaucoup aimé un Dan Burn, qui est pas au niveau, qui est pas un excellent joueur non plus, mais dans la vie du groupe, il est important, c'est un joueur sur qui tu peux compter à deux postes différents, soit arrière-gauche, soit centrale-gauche, et il aime ce genre de profil-là. D'ailleurs, quand tu vois la réaction de Maguire, de la famille de Maguire, vendredi, quand ça a fuité qu'il était pas dedans, je pense que Tourelle, il s'est dit, j'ai bien fait.
Lui a communiqué en disant qu'il était choqué, mais qu'est-ce qu'a dit sa famille?
Ouais, mais sa mère aussi, sa mère, elle est passée dans tous les médias en disant c'est inadmissible que mon fils soit pas à la Coupe du Monde. Wow. Bon, à un moment, faut se calmer déjà. Tu vois, c'est ça. Par exemple, tu vois un joueur comme Jordan Henderson. Vous savez à quel point je suis pas un fan de Jordan Henderson. J'ai jamais été, même dans ses grandes années à Liverpool. Il est là parce que c'est la babysitter et c'est un peu le coach adjoint que Tourelle voulait. Sur ce qu'il a fait cette saison avec Brentford, où il est même pas titulaire, il y a aucune raison qu'il soit à la Coupe du Monde. Mais tu l'as pris pour d'autres raisons qui vont peut-être t'aider, peut-être pas. Je sais pas trop. Mais quand je vois un joueur comme Adam Wharton, par exemple, qui fait une super saison avec Crystal Palace, qui va peut-être gagner un titre européen dans deux jours, et que lui, tu l'emmènes pas, j'ai un peu de mal quand même.
Bon, voilà pour la liste anglaise qu'on va suivre cet été au Mondial. Julien sera là également. Julien fera des apparitions dans le studio de l'After à New York.
Bien sûr,
Julien,
temps,
t'attends. Porte
ouverte. Je suis pas loin, je suis au bout de la rue.
T'es au bout de la rue, tu viens nous voir. On sera là tous ensemble pendant toute la compétition. C'est la mi-temps, Polo. Hein. Je fais un fil rouge de ce match qui m'intéresse, moi.
C'est chaud pour Wolfsburg. Je sais pas comment ils vont pouvoir tenir comme ça encore 45 minutes.
Polo, on va découvrir un nouveau club en Bouli, saison prochaine.
Oui.
Elversberg, 59e club en Bundesliga à faire son apparition. Qui est-il? Quelle est cette ville? Si c'est une ville ou une commune ou un village, raconte-nous.
Alors, il y a une phrase, une expression en Allemagne, lorsqu'on parle de Dorfverein, des clubs de village, les clubs de villageois. On dit que les clubs de villageois, ce sont pour les divisions amateurs. Or, ce club, qui a un stade de 9000 places, qui a une petite ville d'un peu plus de 10 000 habitants, va se retrouver en Bundesliga. Et c'est une véritable révélation qui vient de se passer. Mais, évidemment, on a le droit d'enquêter un petit peu, parce que je ne vois pas pourquoi j'enquiquinerais Daniele sur l'histoire de Côme, qui est un petit club avec un petit stade et d'un seul coup se retrouve en Ligue des Champions. Et en Allemagne, si tu veux, un club de village, ça ne peut pas arriver comme ça en Bundesliga. Et le président du conseil de surveillance est un ancien joueur qui a connu la Bundesliga, qui s'appelle Frank Holzer. C'était dans les années 70 à Brunswick. Et ce monsieur, il a aussi réussi dans les affaires et notamment dans la pharmacie, puisqu'il est le fondateur et propriétaire d'Ursa Pharma, qui est une société très connue dans la Sarre, tout proche de la frontière allemande.
Française, et, même, on est à 30 km de la frontière.
Oui, française,
ça,
pardon. Ouais. Oui, j'ai cru que la Sarre était repassée en côté français. Et évidemment, ça a toujours été un petit peu spécial, et lui, il a toujours financé le club, finalement. Et on se rend compte que les partenariats, parce qu'en fait on parle d'Elversberg comme un petit club et on se dit ah, c'est miraculeux, etc. Mais on se rend compte qu'en fait ils sont quasiment le modèle d'Offenheim. D'ailleurs ils se font prêter beaucoup de joueurs d'Offenheim, et je trouve ça assez intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stade ne fait que 9000 places. Il est considéré aux normes, mais on ne sait même pas encore comment se changer dans le vestiaire. Il y a des containers, des algécos dans tous les sens. On est en train de construire un petit peu ce petit club. Déjà l'année dernière, ce club avait fait sensation
en étant barragiste contre Heidenheim justement, et on pensait qu'ils allaient accéder à la Bundesliga, et cette année ils ont perdu Horst Steffen qui était le coach du Werder en début de saison, et puis ils ont perdu leur directeur sportif en cours d'année qui est Ole Buck, qui est aujourd'hui au Borussia Dortmund. Donc il y a une façon de travailler à Elversberg qui est très particulière, où on lance des jeunes. Je vous rappelle Aslani, il était là-bas, aujourd'hui qui est l'attaquant d'Offenheim, il était là-bas, et cette année c'est un véritable exploit qu'ils ont réussi, puisque l'équipe avait quand même perdu beaucoup de sa substance de l'année dernière, et ils ont réussi à monter finalement en finissant second. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le président du club, il s'appelle aussi Holzer, et il s'appelle Dominix de prénom, c'est le fils de Frank Holzer. C'est-à-dire que la question du 50+1 qui embête tous les investisseurs, parce qu'ils doivent toujours faire attention à ce que pense l'association, etc. Je fais pas ce que je veux, je respecte les règles systématiquement. Bon, là, tu sens que c'est plus une affaire familiale qu'autre chose. Et on se pose des questions en Allemagne à savoir si on n'est pas un petit peu en train de contourner le fameux 50+1 pour essayer de faire monter ce club en Bundesliga, puisque c'est finalement Ursa Pharma qui finance très clairement ce club-là, qui est encore une fois un Dorfverein, petit club de rien du tout.
12 800 habitants dans la ville.
Exactement. Il n'y a pas de gare. On ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'arrivée des supporters l'année prochaine. Et ben, en tout cas, ils sont en Bundesliga. Je ne sais pas comment ils vont se maintenir. Je pense qu'on va, quand tu vois l'effectif actuel, ça va être plus que.
Il y a un Français d'ailleurs, il y a Florian Lejoncourt, ancien gardien.
Oui, qui n'est pas systématiquement titulaire en défense centrale, mais il vit évidemment un rêve éveillé. En tout cas, c'était la belle petite histoire de l'année en Allemagne. Mais encore une fois, soyons réalistes, ça n'existe pas, les clubs de village qui arrivent dans l'élite allemande. Il y a forcément quelque chose d'autre.
Un peu d'argent de côté quand même. Voilà. Le site David Mokoua, autre français attaquant. Côme, il y a un capitaine qui est français à Côme, monsieur Dacunha, qui lui, eh bien, va jouer la Ligue des Champions s'il reste, mais j'ai pas de doute, c'est la saison prochaine. Daniele, Côme était en série D il y a 4 ans. Côme va donc jouer la C1 dans quelques semaines, quelques mois. À quel point est-ce un exploit, Daniele?
Ben, c'est un exploit énorme. On l'a
dit. Il y a de l'argent, Côme, attention. Hein.
Oui,
plus grosse fortune d'Italie.
On l'a déjà dit que les propriétaires, ils sont de la famille Artono. C'est des investisseurs dans les tabacs. C'est les tabacs les plus importants en Asie. Apparemment, en plus, en Italie, ils ont dit que récemment, ils avaient, avant Como, ils avaient voulu investir sur l'équipe de Paris, que c'est une équipe, c'est une ville très importante. Je pense que c'est la troisième place avec les plus de supporters en Italie, et qui vient d'être reléguée en troisième division il y a quelques jours, parce que à la place de la famille Ortono, il y a eu le De Laurentiis, le fils de De Laurentiis, qui a pris le Bari. Donc on regrette aussi un peu du côté de Bari, mais ils sont contents chez Como, parce que la famille Ortono, il y a beaucoup d'histoires. Ils ont aussi dit à un certain moment que au début, quand ils avaient pris Como, c'était plutôt pour faire des documentaires. Ils voulaient faire des documentaires un peu comme, Wraxam, je sais pas si vous avez vu toute cette série Reality sur Netflix. Et après, à un certain moment, ils se sont rendus compte que, bon, c'était pas si difficile d'avoir du succès dans le football joué. Fabregas, par contre, il a dit oui, ça n'avait pas été. Comment dire, on a fait un énorme exploit, mais ça, personne nous a offert rien. Quand Fabregas, il est arrivé, il a dit, on faisait les massages dans un bar, il y avait pas beaucoup de structure, il y avait pas la mentalité, bien sûr. Ils ont misé sur certains joueurs. T'as parlé de Dacunha, qui a marqué 2 des 4 buts contre la Cremonese, qu'ils ont donné l'accès à la Champions League à Como. Ben, Dacunha, il était là quand ils étaient en deuxième division. C'était un joueur que, il avait fait les équipes des jeunes avec l'équipe de France, mais qu'ils étaient un peu perdus. C'était un numéro 10, créatif et tout. Il a été replacé au milieu terrain, et là, moi, je pense que c'est un des meilleurs en Italie. Il est un peu sous-côté, on va dire. Et donc, voilà, il y a eu de bons choix après des bons choix. Ils ont 40 millions de salaires sur toute l'équipe. L'Inter, c'est 140. Donc c'est vrai, il y a de l'argent, c'est vrai, ils ont dépensé entre 100 et 150 millions sur les marchés l'année dernière, mais c'est vrai aussi que ils ne surpayent pas leurs joueurs.
Alors c'est quoi la suite justement, parce que Fabregas va rester, ça tu peux le dire ce soir déjà ou pas? Oui, il y a un doute.
Non, il y a toujours des doutes parce que Fabregas il a la cote, c'est-à-dire si demain il y a les Barcelone, on va imaginer Barcelone qui va lui demander de l'entraîner, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire, mais en même temps il devrait rester. Il faut toujours se rappeler que Fabregas il a aussi des parties de société, parce que ça c'est une autre chose très intelligente qu'ils ont fait pour justement pas faire que les gros joueurs venaient et après ils partaient quand une fois c'était fini. Par exemple Varane, il est arrivé à Com, il a pas joué parce qu'il s'est blessé tout de suite, mais il avait des parties de société, donc on le voit toujours dans la tribune, il est là.
Thierry aussi avait investi,
Thierry Henry il a investi là dedans donc il y a un projet, il y a des idées, ils vont refaire les stades, ils ont quand même, ils ont pas d'italien, je l'ai déjà dit, mais par exemple, dans l'équipe des gens, ils sont en train de les former. Il n'y a pas d'Italien, il a dit Fabregas, parce que je n'arrive pas à trouver des joueurs italiens comme je veux. Sinon, ils sont trop chers. Mais il est en train de les faire. Il y a un joueur de 2009 qui s'appelle Cassano, d'ailleurs, comme l'ancien joueur Cassano, qui apparemment, il est très bon. Il a déjà amené dans les bancs, il n'a jamais fait jouer. Mais apparemment, c'est très bon. Donc, on va voir aussi des joueurs italiens sortir des équipes des jeunes du camp.
Je pense à une chose, c'est que même pour jouer avec des champions, il y a un règlement imposé par l'UEFA, les listes. Il faut au moins 8 joueurs, je crois, c'est ça, 8 joueurs sur les 25 inscrits à avoir disputé 3 saisons complètes en Serie A entre 15 et 21 ans. Parmi eux, au moins 4 doivent être issus du centre de formation.
Oui.
Sauf que je ne les ai pas, les 4 là, moi.
Non, pour le moment, il n'y a pas, mais après, on peut. Je pense que déjà, ce n'est pas quelque chose qui les exclut des Coupes européennes, mais c'est quelque chose qui va raccourcir la liste des joueurs disponibles.
C'est ça.
Et après, de toute façon, il y a beaucoup de joueurs que, je me souviens pas les numéros, mais il y a des joueurs que la chose importante, c'est qu'ils soient été formés en Italie. Donc, ils vont les acheter. Et après, oui, il va peut-être y avoir quelques jeunes qui vont, ils vont faire monter des équipes des gens, parce que je répète, ils ont bien travaillé avec les gens depuis plusieurs années. Donc, c'est un exploit, mais c'est pas un exploit où ils arrivent pas préparés, au moins pour ce qu'il dit Fabregas. Après, ils n'attendaient pas du tout d'arriver en Champions League. C'est quelque chose d'extraordinaire aussi de leur point de vue. Donc, je pense qu'il va falloir faire des choses de sur travail. Il va falloir faire quelque chose qu'ils n'avaient pas préparé. Parce qu'en plus, on va en Champions League. Mais personne ne veut faire des mauvaises figures en Champions League. Ni Como, ni la Roma, qui c'est une autre équipe qui n'était pas préparée pour aller en Champions League tout de suite. Donc,
Comme et la Roma en Ligue des Champions, saison prochaine, qui accompagneront Naples et l'Inter pour ton championnat cette saison, Daniel.
Tu sais, la dernière fois que Milan et la Juventus, ils n'étaient pas en Champions League tous les deux?
Non.
Je pense qu'Edgar, il n'était pas né, 92.
Ah oui, je te confirme qu'il n'était pas né. Effectivement. Ouais, ses parents ne se connaissaient même pas. Ils sont encore en troisième, ses parents.
Bah, à peine. Il venait.
Il n'avait pas regagné le gros lot.
Oh, l'autre. Julien Sordubois pour ce magnifique jeu de mots, j'aime beaucoup. C'est parti, tiens, pour la dernière musique de la soirée. Elle est allemande, on va se régaler avec le choix musical de Polo. Alors, ça peut être de la musique classique, ou du bon Rammstein, ou du. Voilà. Écoutez, c'est parti. Non, c'est ça, va. C'est de la pop, ça, pop allemande, ça.
Pop suisse.
Ah oui.
Je l'avais déjà mis une fois, parce qu'il y a un club mythique, Der Weg zu zweit, le chemin pour deux. Et puisqu'il y a un nouveau coach pour la saison prochaine, évidemment, pour Union Berlin. Et c'est tout simplement celui qui a réussi en Suisse un exploit cette saison en étant champion avec le FC Thun qui venait de deuxième division suisse et qui est devenu champion de première division. C'est monsieur Lustril Nelly qui va devenir le nouveau coach d'Union Berlin l'année prochaine. Il paraît qu'il va y avoir une véritable révolution footballistique à Union Berlin. Moi, je me méfie beaucoup par rapport à ce que j'ai vu, comment a joué le FC Thun. Je rappelle que c'est l'une des plus grandes surprises qu'on avait eues dans les championnats européens. C'est-à-dire qu'il a quand même 70 à 80% de son effectif. C'était des joueurs qui l'avaient suivi de seconde division suisse et qui ont gagné en première division. Ce qui, au passage, ne parle pas trop pour l'évolution du football suisse en ce moment, mais ça fait des années que j'en parle. Il adore le contre, ce monsieur. Il adore jouer sur l'intensité, etc. Bah, c'est à peu près ce que fait Union Berlin en ce moment. Et d'ailleurs, je crois que le FC Thun est le club qui réussit le moins de passes réussies dans le championnat suisse. Donc je vois pas en ce moment quelle va être exactement la révolution, mais évidemment monsieur Lustrinelli, Mauro de son prénom, est le nouveau coach, et la dernière fois qu'on avait un Suisse, il s'appelait Urs Fischer, il nous a amené en Ligue des Champions. Donc voilà.
Voilà, pour le FC Thun, champion de Suisse, dans un instant. Tiens, Polo nous dira un mot du Bayern, mais surtout, on va jouer les 11 types de leur championnat. Anglais, espagnol, allemand, italien. Les Drôles de Dames vont se mouiller dans un instant. On essaiera de faire un 11 européen. Restez avec nous pour la dernière demi-heure. Et puis, je vous rappelle qu'à 22h, Pierre Sage, entraîneur de Lens, sera l'invité de l'After sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. L'After prend le relais avec Pierre Sage, invité exceptionnel. Ce soir, le tennis Roland Garros, le court Philippe Châtrier. Je suis inquiet, ça ressemble à la dernière de Gaël Monfils sur la terre battue de Roland Garros, Eric Salio.
C'est vrai que pour l'instant, Gaël n'est pas au niveau, clairement. Il est largement mené par Hugo Gaston. Il y a 6-2, 3-1 au tableau d'affichage. Il y a un peu de mieux, je vous le cache pas, depuis quelques minutes. Il va peut-être se procurer une balle de break. Ou voilà, balle de break qui va venir, balle de débreak plus précisément à venir pour Gaël Monfils. Mais c'est vrai que le premier set était un peu effrayant parce que il sentait pas la balle. T'avais l'impression que c'était un débutant qui retrouvait un cours de tennis. Mais bon, ça peut aller très vite avec Gaël Monfils. Vous savez qu'il a un record ici de matchs en 5-7. Moi, je l'ai dit dans les paris AMC ce matin, je pense que ça va aller au 5-7. Wow. Donc 6-2, ah ouais. Gaston, 3-1 Gaston, mais balle de débreak pour Gaël.
Ça va au 5-7, tu me prépares une place, mon cher Eric. Je te rejoins dès la fin de l'émission.
Avec plaisir. Bien sûr. Enfin, tu vois ça.
Absolument. Tout à l'heure, Eric, tout le monde aime le tennis ici ou pas le lundi soir? Tout le monde aime ou aime?
Ah oui.
Edgar, Julien.
Aimé.
Ah, toi, t'as aimé, bien sûr. Toi, tu regardais Daniele, toi.
Oui, j'ai regardé, mais pas joué.
C'est quoi ta référence italienne, toi? Renzo Ferlan, Gaudenzi?
Ouais. Non, c'est plutôt Sinner.
Oui, aujourd'hui, mais dans l'histoire, je disais, dans l'histoire.
Non, moi, je suis génération Nadal Federer.
Ah oui, d'accord, Nadal Federer. Ouais, Julien, c'est qui ton joueur, toi, absolu, que t'as fait le plus vibrer?
Stéphane Edberg, moi.
Ah voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est tellement vrai, c'est tellement ça.
Ah oui.
le petit blondiné.
Service volé.
Assez élégant, tout, bien sûr. Identification,
blond,
bien sûr.
J'étais blond petit. Voilà, non, je kiffais Stéphane Edberg.
C'est ça, service volé magnifique. Polo, toi, bon, il y en a plein, je pense. Hein. Toi, c'était.
Ouais, mais non, mais là, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or du tennis, fin des années 70, début des années 80. Là où on jouait encore un revers à une main. Et évidemment, moi, c'est Ivan Lendl. J'étais fou, mais quand tu vois Conor McEnroe, Björn Borg et tout.
Oui.
C'était les grands. Quoi.
On a vécu un autre âge d'or du tennis, hein, avec différents, mais quand même. Hein, les Rafa, Roger, Novak, Andy Murray.
Sur le style, il n'y a que Federer. Sur le style, il n'y a que Federer.
Sur bien sûr.
Le reste, là, il y a Wawrinka qui vient de perdre et qui est éliminé. C'était l'un des plus beaux bien revers sûr. De l'histoire du tennis des croisés. C'est ça, Manon.
T'as dû aimer Richard Gasquet un peu quand même aussi.
Ah bah oui, bien sûr. Sauf qu'il était un peu trop français par les défaites.
Quoi, c'est un défaut? Edgar, toi, c'est qui, toi? C'est quoi? C'est Arthur Del Potro aujourd'hui? Del Potro, bien sûr.
Del Potro, c'était mon idole Potre, tennistique quand j'étais petit. J'aime pas trop les favoris, moi. Donc, moi, un outsider ça, en plus, qui a fini par gagner.
C'est pas plus élégant, mais j'adorais le joueur, le panache patate, également. La patate, sa présence sur le court.
Vitas Gerulaitis.
Ah oui, mais là, tu vas loin, hein, bien sûr. Mais là, bien sûr. Ouais, ça, c'est légende. Les légendes du tennis.
Voilà, c'est des
personnalités aussi à côté. C'est ça la différence, encore.
Il faut la fête, ouais.
Grosse personnalité, quoi. Il dit beaucoup la fête.
Ne touchez pas à la drogue.
Et Nastase et compagnie, là. Bon. Polo, quand même, finissons avec le Bayern avant de faire les 11, qui, fait une saison exceptionnelle, quand même, malgré son élimination par le PAF face au PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Le doublé, Coupe Championnat, entériné ce week-end.
On va faire très rapide. Ils ont souffert pendant une demi-heure face à Stuttgart pour finalement l'emporter 3-0. Trois buts d'Harry Kane, évidemment, intouchable. 61 buts pour l'anglais cette saison. 184 toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment repartir l'année prochaine. Bon, on peut dire qu'il va sûrement y avoir un travail pour les latéraux, parce que Davis n'est plus forcément en odeur de sainteté. Et rappelons que Lainer ou Stanisic ont beaucoup compensé au poste de latéraux, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. L'autre question qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même, et c'est un peu une marque de fabrique du football allemand en ce moment, à force d'avoir de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus de prêts, de joueurs qu'on va chercher. Nübel, vous savez Nübel qui jouait à Stuttgart, il n'a plus sa place à Stuttgart, parce qu'il y a justement le gardien de Paderborn, Zeimen, qui est en ce moment sur le terrain, et qui est la jeune star de demain au niveau des gardiens, qui va devenir le numéro 1 à Stuttgart. Et Nübel, qui a un contrat à 10 millions jusqu'en 2030 au Bayern, va rentrer au Bercail. Sauf qu'il n'y a plus de place pour lui. Donc il va falloir qu'il se trouve un autre club, mais il va falloir payer aussi son salaire, et ça, c'est pas évident. Il y a le cas du français Boé, il y a Palinios qui est prêté en première ligue. Donc tout ça fait qu'en fait, le Bayern, bah, il doit dégraisser avant de recruter. Et donc, j'attends avec impatience ce mercato estival pour renforcer le Bayern. Rappelons que Goretzka va partir. Je pense que Bischoff va devenir un petit peu le remplaçant de luxe dans cette équipe, lui qui a été utilisé à tous les postes. Mais ce qui est important, c'est que on va avoir une guerre des Gaules, évidemment, entre Manuel Neuer et Obis pour la place de numéro 1. La défense centrale, possible qu'il y en ait un qui arrive, Kim pourrait partir, mais c'est pas sûr, ça dépend évidemment des montants. Et puis, c'est arrivé il y a 2-3 jours, Max Eberl, le directeur sportif, qui n'est pas, lui, sûr de prolonger en 2027, vu ce qu'a sorti Ulionès ce week-end en disant qu'il y a encore quelques doutes, et ben Max Eberl a confirmé que le grand prodige au poste de numéro 6 du football allemand qui évolue à Hertha Berlin, Hechhorn, 16 ans, 1m85 déjà et qui joue évidemment pour en deuxième
redis
division
son nom, s'il te plaît.
Berlin.
Redis son nom.
Hechhorn.
D'accord.
16 ans, non mais attends, 16 ans, le transfert pourrait se faire aux alentours de 20-30 millions pour un gamin de 16 ans, c'est un truc de fou. Et ben le Bayern, Max Eberl a confirmé que le Bayern était dessus. Il y a d'autres clubs évidemment. Oh là là, failli avoir de
Buzyn. Moi ça m'inquiète. Hein, il y a 16 ans, il fait un 85 déjà au milieu de terrain. Il va culminer à quoi, 90, 95.
Bon, pourquoi je sais pas, mais en tout cas, il est assez monstrueux. Ouais. Donc le Bayern. Et puis moi, la grande question, c'est comment est-ce que Vincent Kompany peut faire mieux l'année prochaine? Rappelons, ouais, hein, 3 défaites en 55 matchs. Donc il va falloir remotiver l'équipe, il va pour repartir sur une nouvelle épopée, et notamment une nouvelle épopée européenne. Et pour conclure, on se pose la question en Allemagne, à savoir si Harry Kane n'est pas le plus grand transfert de l'histoire du Bayern Munich. Et Effenberg a dit quelque chose de très très important. Pourquoi il a remporté la Ligue des Champions? Et voilà, c'est ça les grands clubs. Si t'as pas le palmarès à côté, tu peux être le meilleur que ce que tu veux.
Bon, il est arrivé en Allemagne, il avait zéro palmarès. Il a quand même maintenant deux Bundesliga et une Coupe d'Allemagne. Et 61 buts. Là, ça m'a fait marrer dans le mail que t'as envoyé ce matin. Il a marqué un tiers des buts du Bayern, qui en a marqué 184 cette saison quand même.
Qui a tout explosé. Donc c'est fou. Incroyable. Donc on se pose pas là. Oui, je rappelle, en Allemagne, on sait très bien qui doit être Ballon d'Or. Hein, et c'est pas un Français.
C'est Harry Kane, mais ça va dépendre de ses potes anglais.
À la Coupe du Monde.
Julien, tu disais Eichhorn, très suivi également en Première Ligue en Angleterre. Bien
ouais,
sûr.
Partout. Après un talent pareil à 16 ans, c'est un peu comme Ayoub Bouadi à Lille. Forcément, tout le monde est dessus depuis longtemps même. Ouais.
Si les Anglais le récupèrent cet été, j'aimerais bien voir la réaction.
C'est pas le genre. Hein. C'est pas le genre. Les Allemands partent pas à l'étranger jeunes. Ils partent au Bayern d'abord ou dans un plus gros club que là où ils sont. Pas forcément le Bayern, mais et après peut-être. Mais là, je crois pas qu'ils arriveront à l'attirer.
Bon, on verra. Dernière minute de la soirée, elle est italienne. On envoie la musique, Polo. J'aime bien, j'adore. Merci Daniel.
Sois parfait,
Daniel.
Ben, c'est Raphaël Acara, que je pense que vous connaissez. C'est aussi.
Non, mais on l'adore.
L'argument aussi, c'est elle qui l'a introduit, c'est Pedro. Pedro Rodriguez, notamment, le joueur qui a passé 5 saisons à la Lazio. Avant, il a passé une saison à la Roma et il a joué son dernier match. Il ne va pas renouveler, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer dans son futur. Mais il a salué la Lazio, même une autre mauvaise figure pour Lotito, qui était radin au point de donner un t-shirt de l'année dernière à les enfants de Pedro. Donc il a fait les photos où les enfants ils avaient le maillot de l'année dernière. Mais Pedro, c'est quand même un joueur avec 26 trophées. C'est peut-être le joueur avec le plus grand succès au niveau de trophées du championnat italien, Coupe du Monde, Européen, Champions League, Mondial pour Club, Europa League. Donc c'est un des seulement 3 joueurs à avoir marqué un but dans les derbies avec les maillots de la Roma et un but dans les derbies avec les maillots de la Lazio, même si avec la Roma il a marqué que 5 buts. Mais il est beaucoup plus aimé par les supporters de la Lazio. Il est souhaité toujours jusqu'à la dernière route. Il est parti avec un dernier but aussi joli contre Pise, un beau souvenir de son talent. Et voilà, la minute s'est dédiée à Pedro, mais
Côté Roma, aussi Stéphane El Shaarawy, il est parti, il a salué. Lui aussi, il laisse un souvenir énorme. 9 saisons et demie, 14e joueur de l'histoire de la Roma par match joué. Et c'est un garçon de Milan, très milanais, qui n'a jamais appris à parler comme un Roman, mais qui a été adopté, très aimé. On voit à Rome, on voit les enfants avec le t-shirt des Shaarawy, avec sa crête, un peu de bande dessinée. Donc voilà, c'était un week-end où la Roma et la Lazio, ils ont vu partir deux joueurs assez symboliques, assez importants au niveau affectif.
Voilà pour la minute de Daniele, très bon choix musical que vous retrouvez sur la playlist After-DDD sur Spotify. N'hésitez pas à piocher dedans, tout est recensé depuis des années déjà. Dans un instant, la suite, c'est avec Polo, Edgar, Julien et Daniele. Le tennis, rapidement, Eric Salio, on en est où? Gaël Monfils, Hugo Gaston.
Il a débreaké, Gaël Monfils, dans cette deuxième manche. Donc, 6-2-3-2 pour Hugo Gaston. Mais Gaël a en sa raquette une balle pour faire 3 partout. Il va mieux. On est à 1h11 et j'ai failli annoncer 3 partout. Mais le retour de Gaston est tombé pile poil sur la ligne. On va suivre ce point-là. Gaston qui fait mal à Gaël. Mais Gaël est en train de prendre ses marques amorties. Il va y aller. Gaël, il a du mal. Il tire ses jambes et ça va finir par une volée gagnante. Oh là là, c'est du grand chien là. Oh, du coup, entre les jambes. C'est incroyable. 2 coups entre les jambes. Un pour chacun et finalement Hugo Gaston remporte ce point. C'est du show.
Allez, on fait le show avec toi ce soir sur RMC et dans un instant la suite, c'est la fin des Drôles de Dames. À tout de suite.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin. Avec 4 drôles de dames, toujours sur le cours de Roland Garros, Gaston, mon fils. Eric Salio, rapidement, est-ce qu'il a débreaké ou pas également fils? Est-ce qu'il a égalisé à 3 partout?
Non, toujours pas, parce que Hugo Gaston réalise des prouesses en défense. Et oh là là, c'est pas possible! Non, mais là, à chaque fois que vous venez, il y a des points fabuleux. Mais Gaston, ce qu'il fait, c'est merveilleux. Il a fait un contre-smash alors qu'il était dans les bâches. Je vous jure, c'est la pure vérité. Et il gagne le point derrière et il se procure une balle pour faire 4-2.
C'est style Hugo Gaston, à la française, une main qu'on voit ce soir. On verra ça tout à l'heure, mon cher Eric. Ouais. Alors, beaucoup de choses à dire encore. On va prendre rendez-vous pour lundi prochain pour les 11 de Polo, Julien, Edgar et Daniele, le 11 de leur championnat, plus le 11 type européen. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur la fin de vos championnats ce week-end, notamment en Angleterre. Notamment l'autre émotion, c'était la dernière de Mo Salah, mon cher Julien, qui en plus, se paie le luxe de terminer meilleur passeur de l'histoire de Liverpool sur la dernière.
Ouais, avec sa passe d'aise pour Curtis Jones, il dépasse Steven Gerrard. C'était sûrement les adieux. Alors, il aurait voulu marquer, je suis sûr. Il a frappé sur le poteau un coup franc direct. Mais en termes d'adieu, sincèrement, c'est difficilement possible de faire mieux que Salah et Bernardo Silva hier. Parce que quasi pas au même moment, parce que Bernardo est sorti un peu plus tôt, on l'a dit tout à l'heure, mais Salah ensuite, les yeux rougis déjà au bord du terrain, enfin quand il est sorti du terrain, ensuite l'hommage qui lui a été rendu par Anfield et ce peuple rouge qu'il a adulé pendant les 10 années qu'il a passé, les 9 années qu'il a passé au club, c'était juste incroyable. Il a dit après le match cette phrase magnifique, j'ai jamais autant pleuré dans ma vie entière qu'aujourd'hui. Et c'est vrai, mais déjà, et les réseaux sociaux, on est tous dessus, on sait tous que parfois ça peut être un peu un enfer et pas toujours la meilleure chose, mais sincèrement, les hommages qu'ont rendus Liverpool à Andy Robertson et Mo Salah et City, notamment à, et pas que chez moi, hein, je suis sûr dans tous vos championnats aussi, mais en particulier puisqu'on parle de Salah et de Robertson à Liverpool, rien que regarder ces vidéos-là, ça vous donne envie de pleurer. Alors sur le terrain, pour eux, j'imagine qu'effectivement c'était très difficile de contenir les larmes et ils n'ont pas réussi d'ailleurs aucun des deux légendes du club, surtout Salah, encore plus Salah bien sûr pour tout ce qu'il a réussi, même si cette saison est un peu décevante finalement et qu'elle se termine un peu de cette façon. De cette façon-là, avec ce qui s'est passé avec Slot, etc. Des stats en baisse largement, mais l'hommage qui lui a été rendu a été à la hauteur de tout ce qu'il a donné à ce club.
Mo Salah, Liverpool qui termine 5e de Première Ligue, qui verra donc quand même la Ligue des Champions malgré une saison laborieuse, a priori avec Arne Slot, c'est pas encore officiel, confirmé mon cher Julien pour l'instant. Oh, le poteau, Polo! Le poteau de Paderborn!
Attends, je suis un petit peu en retard.
Je suis désolé. Le poteau, est-il rentrant ou pas, le poteau? Le poteau, l'extérieur du pied droit.
L'extérieur, mais c'est fou ça. Wolfsburg ne voit rien depuis un quart d'heure. Ils sont dans leurs 30 derniers mètres. Je ne comprends même pas comment Paderborn n'arrive pas à marquer. Ils utilisent peut-être un peu trop les balles au second poteau.
Daniele, on va revoir la Roma en Ligue des Champions. Ta Roma en Ligue des Champions. 7 ans après, exactement, l'avoir quitté en 2018-2019.
Alors c'est assez incroyable parce que Gasperini, il est arrivé, il a dit il y a longtemps, hein, je parle de mois d'octobre quand la Roma elle était un peu par miracle deuxième, troisième, elle était en certain moment, pour une seule journée mais elle était aussi première. Et lui il disait mais non ça c'est pas notre niveau, nous on n'est pas là pour la Champions League, mais les présidents ils m'ont rien demandé, ils pensent que c'est une saison de transition, mais moi je pense pas à d'autres choses qu'à la Champions League. C'est mon objectif. Je pense que cette équipe, elle peut la jouer. On la joue jusqu'à la dernière semaine. On se rappelle de quand la Roma, elle a fait 3-3 contre la Juventus. Lui, il a dit, vous inquiétez pas, nous, il faut pas se déprimer. De toute façon, en Champions League, on y va, si on y va, à la dernière journée. Après, la Roma, elle a perdu 5-2 contre l'Inter. Et lui, il a dit, mais je veux tout bien dans la Roma. La Roma, elle a perdu contre Como. Et lui, il a dit, on a fait un bon mi-temps, la première mi-temps. Moi, je pense que cette équipe, elle a du potentiel. Il a fait virer Ranieri parce que, voilà, il y a eu les conflits. Lui, il a défendu les vieux blocs, la gang de la sixième place. D'ailleurs, Pellegrini, il a tweeté la gang de la troisième place. Parce que la Roma, elle
est troisième. C'est pour eux. Pour ces joueurs oui, habitués à la sixième place, hein, qui se font un peu moquer depuis quelques saisons
oui,
à la Roma.
Mais c'est vraiment un miracle de Gasperini. Il n'y a personne, part Gasperini, qui l'a cru autant que Gasperini à tous les moments.
Et toi non plus, tu ne l'as pas cru, je me rappelle, il y a encore trois semaines.
Non, pas du tout. Non, mais ça aurait été mental d'y croire. Il n'y avait pas de raison. L'équipe, elle jouait mal, elle perdait. Il y avait 5-6 matchs de la fin. Et après, il faut dire, la Roma, elle a été aidée par les performances de la Juventus, de Milan, dont on a parlé. Donc, il a fallu avoir de la complicité. Mais en même temps, chapeau à Gasperini qui l'a cru, chapeau à cette équipe qu'elle a joué jusqu'à la fin. Et même les matchs contre Verona relégués, c'était pas un match simple. Oui. Il a fallu un énorme Dybala pour le gagner. Malen, moins brillant que d'habitude, mais bon, c'était quand même exceptionnel lui aussi, son impact.
Ben, je suis content. On va revoir la Roma en Ligue des Champions. Voilà, la saison prochaine.
Moi, je vois déjà, tu sais, comme le soleil qui se lève, je vois les 7-1 de Paris Saint-Germain contre la Roma, donc j'ai un peu peur de ça.
T'as raison.
C'est nous, on a les traumas de 7-1 subis par Bayern Munich, Manchester United et tout ça. Ben, on va en parler l'année prochaine.
Mon cher Edgar, tu voulais nous parler du Rayo Vallecano, notamment et d'abord de Retafe aussi ce soir. C'est important d'en parler.
Oui. Non, mais Retafe, ce qu'on disait en tout début de saison, ils avaient commencé la première journée de championnat, alors de mémoire c'était à Vigo qu'ils avaient joué, et ils avaient même pas assez de joueurs professionnels pour faire un effectif complet. C'est juste dingue parce qu'ils avaient des joueurs qui n'étaient pas inscrits parce que ils avaient tellement peu de moyens qu'ils n'arrivaient pas à inscrire les joueurs qu'ils avaient, et avec ça ils arrivent à se qualifier en Coupe d'Europe, à terminer 7e, à jouer une Conference League en étant la deuxième pire attaque de Liga. C'est-à-dire, des fois, on parle des entraîneurs stéréotypés qui défendent, mais Bordalas, c'est le boss ultime du football défensif, du football rugueux, du football pragmatique aussi, parce que c'est ça qu'il a réussi à faire. Et d'envoyer Retafe dans ces conditions-là, en Conference League, s'il n'y a pas une équipe ou un club qui a besoin d'un gars pour remettre un petit peu d'ordre et pour avoir quelqu'un qui va envoyer ses troupes à la guerre, s'il n'y a pas un club qui tente Bordalas cet été, je serais très surpris. C'est vraiment un exploit pour eux. Et bah, il y a un joueur qu'on a, parce qu'on, forcément on n'a pas énormément parlé de Retafe parce que c'est pas l'équipe pour laquelle on se régale le plus, mais t'as un joueur quand même qui termine, Luis Milla, avec 10 passes décisives sur 32 buts. Donc ça veut dire que quasiment un but sur 3 vient de lui, 10 passes décisives dans la deuxième pire attaque de championnat. C'est quand même assez fou, et c'est l'un des grands artisans évidemment de cette épopée quelque part en championnat
lui,
de Retafe.
Ça méritait une petite danse quand même. Il a pas.
Mais Najib m'a parlé dans l'oreille en même temps. Et donc je me suis perdu dans les deux.
Rappelle-nous son nom à ton meilleur passeur de Retafe.
Luis Milla.
Voilà. Je pense que Julien doit l'avoir au moins pour la référence, mais bon, c'est pas grave. Personne ne suit. Parlons également rapidement de Tottenham, de Zerbi, qui est en folie après le maintien, mon cher Julien. Incroyable, exploit. 11 points à cette match. Bravo.
Ouais, ça a été content. Après, c'était...
c'était l'objectif, hein. Il est venu pour les sauver, il les a sauvés.
Bravo, mais
même à la fin, effectivement, il a commencé à célébrer, et puis après, il s'est rendu compte que c'était peut-être un tout petit peu trop. Et puis, il a fait du déserbi, dès que le match s'est terminé. En conférence de presse, il a expliqué après qu'il avait que 10 joueurs qui étaient capables de jouer pour lui la saison prochaine. Donc, en gros, le reste, faut dégager. Alors, je sais pas s'il pense vraiment que tu peux laisser partir 15 joueurs et en racheter 15 nouveaux quand t'es à Tottenham, parce que ça, c'est pas possible, ça se passera pas comme ça. Surtout, il a aussi dit, dans les 10 joueurs là qui ont le niveau, c'est aussi les 10 bonnes personnes du vestiaire. Ça veut dire qu'il y a 15 mauvaises personnes aussi dans le vestiaire. Oh, donc,
il va te mettre le feu. Encore,
donc, je pense que ça peut être sympa la saison prochaine aussi. Mais en tout cas, là où il a raison, et déjà bravo à lui, parce que au niveau du soulagement de tous les supporters, de tout le stade, c'était quand même, voilà, c'était beau à voir. Et puis, c'est jamais agréable d'être dans ces positions-là. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que cet été, ils peuvent pas encore répéter les mêmes erreurs que l'été dernier, celui d'avant. Ils peuvent pas se tromper encore. Tu peux pas continuer dans ce genre de médiocrité. Et deux fois 17e d'affilée, je suis pour un club pareil, avec l'argent qu'ils ont, les infrastructures qu'ils ont, les effectifs qu'ils ont, les entraîneurs qu'ils ont, c'est juste inadmissible. Donc, à un moment, j'espère qu'ils auront enfin la tête à l'endroit et qu'ils pourront faire les bons choix et repartir de façon un peu plus positive au mois d'août pour le début de la saison.
Voilà. Puis, je vous donne rendez-vous aussi mercredi soir. Finale de la Conference League entre un club de Julien, Crystal Palace, et le Rayo Vallecano. Vous serez là pour en parler, messieurs, bien sûr. Tu crois, Edgar, le Rayo qui tape Crystal
Palace? Compliqué quand même. Très compliqué. Après, ils ont tellement quelque chose de spécial. Ils ont tellement d'envie, d'âme. Il y a vraiment quelque chose de particulier autour de cette équipe cette saison en Conference League, et avec un coach qui est vraiment très très intelligent. Donc, t'es jamais à l'abri qu'il te sorte quelque chose de son chapeau, qu'il ait une super idée et qu'il arrive à transcender ses troupes. Donc, pourquoi pas, mais ça paraît quand même, ce serait juste fou s'il gagne une coupe.
Non, Edgar a raison, franchement. 3-0 et Oli, allez, bim, je vous l'annonce tout de suite. Hop, c'est fait.
C'est là-dessus qu'on va se terminer, doucement.
C'est possible aussi.
Qu'on va s'arrêter, c'est un peu mieux.
Et mais Gaston, mon fils, non, oh là là, incroyable, Eric Salio, encore un point.
Il y a combien, Eric Salio, là, à Roland-Garros?
Arrêtez de vous moquer de moi, je ne sais pas. 6-2-4-3 pour Hugo Gaston.
Tu commençais comme si c'était une finale de Grand Chelem et que c'était fou. Doucement,
encore,
Eric.
Je veux encore
un peu de mesure quand même.
Cazard, il va encore se foutre de ma gueule.
Incroyable passing de Gaël Monfils à partout dans le deuxième set. Il fou ce qu'on vient à Roland-Garros.
Mon Dieu. La passion,
Eric. Mon Dieu, il est temps que ça s'arrête.
Tu vis ce match avec Gilbert dans l'after dans un instant. Merci, Edouard Ledame. Rendez-vous lundi prochain. Tiens, on fera justement les 11 types de vos championnats. Le 11 type européen aussi. On va faire un bilan. Puis on sera encore là le 9 juin pour une spéciale Coupe du Monde, bien sûr, avec vous quatre. Même Daniel sera là. Quand même, on va le convier. Restez à l'écoute de RMC et de l'After dans un instant. Pierre Sage, invité exceptionnel de Gilbert et Daniel. Bonne soirée à tous.
Génération After.